Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Flora Messi.
Tout pile sur RMC, salut à tous, c'est parti pour l'Intégral Sport jusqu'à 15h avant le Multiligue 1 avec Salim Bongali. Manu Amoros est avec moi, membre de la Dream Team Foot de RMC. Salut Manu.
Salut Flora, bonjour à tous.
Dans quelques instants, on envoie à Auxerre Ajaccio, 13e journée de Ligue 1, un duel pour le maintien entre des Auxerrois qui n'ont plus gagné depuis 8 matchs et des Ajacciens qui tentent de relever la tête après un début de saison catastrophique. Bonne ambiance. On vous présentera aussi toutes les affiches du Multiligue 1 à 15h avec notamment Monaco et Rennes sur les pelouses. Les MNM qui sauvent le PSG face à 3, Kevin Gamero et Strasbourg qui enfoncent l'OM. Journée de Ligue 1, autant rebondissement hier. Supporters parisiens, appelez-nous au 32-16 pour nous dire si vous aussi vous êtes inquiet de la défense parisienne. Et puis on parlera F1, Max Verstappen rafle tout dans cette fin de saison. Déjà champion du monde, le Néerlandais partira en pole position ce soir du Grand Prix du Mexique avec en ligne de mire une 14e victoire cette saison. Ce serait un record absolu. Mais d'abord la Ligue 1, donc 13e journée Auxerre Ajaccio. Manu, t'es prêt?
Oui, je suis là, impeccable, ouais. J'attends ce match-là avec impatience.
On va retrouver Frédéric Joly du côté d'Auxerre. Salut Frédéric, ça y est, c'est parti.
Salut Florent, salut Manu.
Salut Fred.
Eh oui, c'est parti exactement depuis 1 minute et 18 secondes au stade Abbé Deschamps entre cette équipe d'Auxerre, hein, tu le disais, qui reste sur 8 matchs sans victoire, de nul, 6 défaites. Une équipe d'Auxerre où il y a eu... pas mal de mouvements cette semaine avec l'arrivée de Christophe Pélissier pour remplacer Jean-Marc Furlan à la tête de cette équipe auxerroise. Et puis on peut signaler quand même qu'il y a eu un bel hommage rendu à Christophe Bessières, qu'on en appelait Tito ici. Il était l'un des fondateurs des Ultras Auxerre. Il nous a quittés il y a quelques jours à l'âge de 52 ans. Bel hommage, grand tifo. Et tous les joueurs auxerrois ont été se mettre devant la tribune pour rendre hommage à ce garçon qui a permis au club ultra Auxerre de naître. Le score, eh bien, il est de 0 à 0. On peut vous donner les compositions, Flora, si
mais
tu veux.
Mais bien sûr. Ah, bien
ça
sûr.
Peut servir.
Mais oui,
ça avec aussi dans les buts. Janvier et Joubal compose la charnière centrale, Mensa à gauche, Rabelloson à droite, Saki Touré à la récupération, Autrette dans le couloir gauche, Sinayoko à droite, Niang et Da Costa seront associés à la pointe de l'attaque. Du côté d'Ajaccio, le roi dans les buts, Vidal à Vinel en défense centrale, Youssouf à droite, Koné à gauche, Marchetti, Coutadeur à la récupération, Bayala à droite, alors que Belaïli sera... Ouh, la première occasion ajaccienne s'est passée juste à côté. Alors que Belaïli sera sur le côté gauche, Moussiti Oko et El Idrissi seront eux associés à la pointe de cette attaque corse.
Ouais, c'est vrai Manu, on va rappeler quand même aussi ces enjeux pour les deux équipes, hein, parce que là on est vraiment dans le bas du classement. On va rappeler qu'il y a 4 descentes cette année, et donc forcément ce genre de match à confrontation directe face à un adversaire qui joue comme nous, du coup la descente, c'est vraiment des matchs à gagner.
Oui, c'est des matchs à gagner, mais le problème qu'il y a, c'est qu'ils ne marquent pas beaucoup de buts. Auxerre n'a marqué que 12 buts et Ajaccio a marqué que 8 buts. Alors, c'est des équipes qui encaissent énormément des buts. J'espère que cet après-midi, on va pouvoir avoir des buts, des équipes qui attaquent et qui se libèrent un peu plus pour pouvoir gagner ce match, parce que c'est très important que l'une ou l'autre gagne le match.
Ouais, puis la confiance n'est pas forcément là, notamment du côté d'Auxerre, hein, Frédéric.
Ouais, exactement. Hein. Il y a eu beaucoup de mouvements. L'arrivée mercredi de Christophe Pélissier pour remplacer Jean-Marc Furlan, qui a été licencié après son geste obscène du côté de Clermont, son geste à destination du public. Bon, après, on entend tout et n'importe quoi. On se dit, bon, peut-être que c'est l'excuse pour se débarrasser de Jean-Marc Furlan, car ça n'allait pas très très fort. S'il avait été 8e, est-ce que la décision aurait été la même? Ça, on ne sait pas. Enfin, en tous les cas, sur ce que Christophe Pélissier est venu jouer un peu les sauveurs. Alors on parle, Manu, tu vas me dire ce que t'en penses, on parle souvent d'effet psychologique quand il y a un nouvel entraîneur, est-ce que tu penses que ça joue vraiment?
Alors je sais pas, on dit surtout l'électrochoc d'un entraîneur qui arrive et qui met peut-être une composition différente, une confiance peut-être à retrouver, mais bon, je crois qu'il est pas arrivé, il est arrivé à quelques jours de ce match-là. Est-ce qu'il a eu vraiment le temps de préparer ce match avec les joueurs? Je crois pas. Alors voilà, on va voir aujourd'hui sur le terrain si ce nouveau changement d'entraîneur peut profiter à Auxerre dans un schéma peut-être en 4-4-2 comme il le faisait quand il était à Lorient. Alors voilà, on va regarder ses premières minutes pour voir si vraiment il y a un électrochoc qui peut se produire du côté d'Auxerre.
Ouais, c'est vrai que tu as raison, il a laissé de côté le 4-1-4-1 qui a été mis en place par Jean-Marc Furlan pour revenir à un schéma plus classique, un schéma qu'il aime qui plus particulièrement ce fameux 4-4-2 avec une association d'Acosta Nyang à la pointe. On va voir si c'est efficace. C'est vrai qu'il est arrivé mercredi, premier entraînement, première approche, première rencontre le lendemain avec quasiment tous les joueurs. Et puis d'ailleurs, on a vu à un quart d'heure du coup d'envoi tous les joueurs auxerrois se mettre en cercle, que ce soit les titulaires ou les remplaçants, et ensemble rester de longues minutes comme ça à discuter et sans doute à se motiver et à chercher les bons mots pour rentrer le mieux possible dans cette rencontre. D'ailleurs, on vient de voir une belle frappe de Saki qui vient de passer juste à côté du but de Leroy. 0-0.
Merci Fred, on va revenir te voir évidemment régulièrement. Cet Auxerre Ajaccio, c'est le fil rouge de notre intégral sport, mais il se passe beaucoup de choses hein, sur la planète sport aujourd'hui. La saison de Formule 1 notamment touche bientôt à sa fin, encore 3 grands prix au programme. Les monoplaces sont au Mexique ce week-end, plus de suspense on le rappelle pour le titre pilote puisque Max Verstappen est champion du monde, ni le titre constructeur qui est pour Red Bull, mais il y a encore tellement de choses à dire. Jean-Luc Roy, salut Jean-Luc.
Bonjour Flora, bonjour à tous.
T'es là Manu aussi pour parler
ouais,
avec
salut
nous.
Jean-Luc.
Ah, salut Manu, je t'ai oublié, excuse-moi.
La c'est première pole position en carrière pour Max Verstappen au Mexique. Ça y est, il a vaincu la malédiction. Intraitable, hein, le Néerlandais, dans cette fin de saison. Il est loin d'être rassasié. Hein.
Oui, et en plus, c'est une pole magnifique parce qu'effectivement, ça n'allait pas si bien que ça. On l'a vu dans les séances d'essais libres. Il avait eu aussi quelques problèmes d'équilibre général. Il faut rappeler que le circuit est situé à 2240 mètres, pour être précis, d'altitude. Donc, il y a moins d'appui aérodynamique. Donc, il faut régler les monoplaces totalement différemment. Et on a vu que, par exemple, les pilotes Ferrari s'en sont plaints, puisqu'on a même vu Charles Leclerc perdre sa monoplace en FP2. Bon, heureusement, sans trop de conséquences. Bref, les monoplaces étaient très difficiles à équilibrer. Et là, je pense que Verstappen a sorti un tour de folie. Enfin, manifestement, il domine ce championnat, on l'a dit et redit. Même si, au nombre de pôles, Charles reste devant avec 9 pour le moment, contre 6 pour Verstappen, et il ne pourra pas l'égaler. On a
ce
compris.
Sera déjà ça qu'il n'aura pas.
Mais en termes de victoire, et je pense qu'on va y venir, bah, effectivement, Verstappen peut être en mesure de battre un record absolu.
On va en parler, effectivement. On va juste faire un petit détour avec Frédéric Joly pour Auxerre-Ajaccio, avec un très bon confront pour Auxerre.
Exactement, après une faute sur Sinayoko à l'entrée de la surface de réparation, il y a Autrette ou le pied gauche de Mensa. C'est finalement Autrette qui frappe. Oh là, c'est complètement manqué. Ça a été touché. Non, finalement, ça a été dévié parce que ça me paraissait quand même assez largement au-dessus du but. Je me suis dit, là, il faut qu'il arrête les coups francs. Mais non, finalement, le ballon a été légèrement touché par le mur ajaxien, le corner. Est à suivre avec il y a toujours Autrette pour amener cette balle dans la surface de réparation. Alors, il y a un regroupement d'Auxerrois au point de pénalty ça va sans doute après exploser et partir dans tous les sens. Voilà qui est fait, le ballon, oh, c'est laissé juste derrière, peut-être pour la frappe de Saki, oh le but de Saki, oh qu'il est beau ce but de Saki. On ne sait pas s'ils ont eu le temps de travailler ce type d'action à l'entraînement, mais en tous les cas tout le monde a entraîné les défenseurs ajacciens vers le but. Cette petite balle a raté vers Saki, la frappe est superbe, elle est en pleine lucarne droite de Leroy qui ne peut absolument rien faire, et après 8 minutes de jeu, la Auxerre prend l'avantage, la Auxerre mène 1-0.
Manu, t'espérais voir des buts aujourd'hui, c'est réussi.
Ben ouais.
Quel but en plus hein.
Ah ouais, quel but, magnifique. Bon, je pense que Fred, c'est pas une combinaison à mon avis. Hein. C'est un mauvais.
Il avait que ça à faire.
Ouais, non, je crois qu'il a manqué complètement son corner. Ce ballon est arrivé, ils ont dû se parler les deux. Et puis Saki qui prend, il contrôle, il n'y a personne qui monte sur lui et qui l'empêche de pouvoir frapper. Et en pleine lucarne, magnifique, superbe but.
Ça fait 1-0 donc pour Auxerre à la Baie des Champs face à Ajaccio, 13e journée de Ligue 1. On parlait Formule 1 dans l'intégral sport. Il est 13h09 bientôt avec Jean-Luc Roy pour le Grand Prix du Mexique ce soir. On le disait, la pole position pour Max Verstappen. On parlait de tout ce qu'il peut glaner encore cette saison. Évidemment, c'est le record de victoire sur une saison, parce que s'il s'impose ce soir à Mexico, eh bien ce sera une 14e victoire et personne n'aura fait mieux dans l'histoire de la Formule 1.
Et non, effectivement. effectivement. Pour le moment, à 13 victoires, il est à égalité avec Michael Schumacher, c'était en 2004. Avec Sébastien Vettel, c'était en 2013. Alors bien sûr, il faut toujours rapprocher ça du nombre de Grands Prix par saison, évidemment, si on veut être logique jusqu'au bout. Mais il n'empêche que l'exploit...
Ça change tout quand même, c'est
ça
vrai.
Ça change tout, bien sûr. Mais il n'empêche que l'exploit, s'il le réalise, sera formidable. Et puis je crois qu'il y a un autre record qu'il peut battre de mémoire, c'est 413 points en une saison qui a été établi par Hamilton. Et je crois qu'il peut le battre également dès ce Grand Prix ou dès le suivant. Donc effectivement, bon, là après, c'est surtout soif de victoire qu'il a. On a bien compris que...
On sent, ouais.
Il est, je pense qu'il est au-dessus du lot là actuellement, quelle que soit la monoplace dont il dispose. Il est sur un nuage et bon, ça se voit déjà par rapport à son équipier Checo Pérez, qui là est porté par le public, c'est peu de le dire. Mais je crois que là, il y a pas grand-chose à faire contre lui hein, quand il est en forme. S'il prend un bon départ, enfin, on va voir.
Manu, est-ce que tu es impressionné par Max Verstappen? Parce que c'est vrai qu'il est jeune, hein, quand même, on va le rappeler aussi encore. Et il est vraiment impressionnant.
Florent, tous les dimanches, malheureusement, quand il y a un Grand Prix, on dit toujours, il nous impressionne. Et c'est vrai qu'il a une mentalité de vainqueur. Je crois qu'il se... Je ne sais pas si ce mec, il se met la pression. Je crois qu'il est calme, il est serein, il connaît bien sa voiture, il connaît bien ses performances. Ses ingénieurs avec lui montrent qu'ils peuvent compter sur eux, parce que c'est pas évident de préparer une voiture et être aussi performant tout le long d'un Grand Prix. Ils ont eu quelques couacs, bien sûr, tout au long de la saison. Mais voilà, c'est un surhumain, quoi, parce que c'est pas évident de pouvoir être aussi performant dans la durée.
Puis tu as raison, Manu, il est serein. Et tu sais, je crois que c'est toujours pareil. Il y a une première fois dans tous les domaines. Il y en a une en matière de championnat du monde de Formule 1. Et quand tu as gagné ton premier Grand Prix, tu sais que tu peux le faire. Et les autres pilotes te regardent plus pareil. Et quand tu es titré champion du monde, même si c'était, on va pas y revenir sans arrêt dans des conditions difficiles, mais il l'a fait. Oui. C'était lui le meilleur sur la saison. De toute manière, personne
ne
peut contester. Non, c'était au contraire, c'était lui le meilleur. Donc maintenant, il sait qu'il l'a fait, il le refait. Alors il faut du matériel, ce sont des sports mécaniques, il faut tout, mais un grand pilote, c'est aussi un fédérateur, c'est quelqu'un qui sait faire travailler toute l'équipe dans la même direction. Et même s'il a à peine 25 ans, il les a eu le 30 septembre dernier, donc c'est quand même encore un gamin, on peut oser le dire, mais avec deux titres de champion du monde, je crois que il a mûri, c'est un pilote formidable.
13h11 dans l'Intégral Sport sur RMC. On suit Auxerre Ajaccio, 13e journée de Ligue 1. 1-0 déjà pour les Auxerrois après 12 minutes de jeu. Mais on parle Formule 1 aussi avec le Grand Prix du Mexique ce soir et avec Jean-Luc Roy. Quand on regarde aussi cette grille de départ, Jean-Luc, ce qui saute aux yeux aussi, finalement, c'est le retour au premier plan des Mercedes. Russell 2e, Lewis Hamilton 3e. Ça y est, enfin, ils commencent à appréhender un petit peu leur voiture.
Alors oui, à chaque fois, il faut expliquer dans quelles circonstances. Parce que c'est pas du tout pour, au contraire, réduire le travail qu'ils ont fait qui est magnifique hein, parce qu'ils étaient pratiquement nulle part.
Partaient de très loin.
Voilà, la première partie de la saison avec, on le rappelle, des options aérodynamiques qui étaient très délicates hein, notamment ces pontons très différents, on l'a vu, ou quasiment absents. Bon, on a beaucoup travaillé et on est parvenu à améliorer cette monoplace, parce que il faut voir, si on prend une photo précise et qu'on regarde ce qu'est devenu la monoplace par rapport à ce qu'elle était en début de saison, il n'y a pratiquement plus rien à voir. Alors évidemment, c'est toujours délicat parce que ce sont des petites retouches et puis des choses qui ne se voient pas, qui sont dessous, puisqu'on a modifié l'équilibre aérodynamique des monoplaces cette saison. Mais là, oui, c'est un tir groupé formidable. Alors, un circuit, je le répète, à 2200 mètres d'altitude, donc avec peu d'appui aéro. Donc, paradoxalement, il y a des grandes lignes droites, notamment celle du départ, et on va en reparler parce que là aussi, beaucoup de choses pourraient se jouer dans les 800 mètres qui séparent la grille de départ du virage numéro 1. Et c'est pour ça qu'on dit aussi que Lewis Hamilton, qui va partir donc 3e, est dans une position idéale parce qu'il va bénéficier au moment du départ de l'aspiration sans DRS. On rappelle qu'on l'ouvre uniquement après deux tours, mais il va bénéficier de l'aspiration du ou des pilotes qui sont devant lui. Donc, mais les Mercedes ont progressé sur un tir comme ça groupé avec 5 millièmes d'écart en plus entre les deux pilotes, même s'ils sont à 3 dixièmes de Verstappen. Mais je l'ai dit, ça c'est l'effet Verstappen. En tout cas, les monoplaces, elles sont dans le coup et plus que les Ferrari sur ce circuit-là, en tout cas.
On parle beaucoup de Lewis Hamilton aussi cette semaine parce qu'il a évoqué sa possible prolongation avec Mercedes, sa volonté en tout cas de prolonger. Les négociations sont en cours. Je ne me sens pas vieux, a-t-il dit. Il a 37 ans, on va le rappeler quand même, Lewis Hamilton. Est-ce qu'il peut continuer encore longtemps comme ça? Parce qu'on a vu certaines limites quand même déjà cette saison pour l'anglais. Beaucoup ont évoqué une possible fin de carrière, ont demandé même d'arrêter parce que c'est vrai qu'il n'est plus au niveau qui a été le sien. En même temps, il a été tellement haut que c'est compliqué de rester à ce niveau-là. Et il y a une telle concurrence aussi qui lui fait défaut aujourd'hui.
Alors la comparaison, c'est toujours avec l'équipier, tu me vois venir, je le répète sans arrêt, donc avec Russell, qui est un très jeune pilote, un jeune britannique également, 23 ans, qui accède à sa première saison chez Mercedes. On savait qu'il avait du talent. À ce point-là, c'est encore à voir, il est toujours au championnat du monde devant Lewis Hamilton. C'est sûr que Lewis a eu un petit coup de mou, à part le premier Grand Prix où il avait tiré son épingle du jeu, mais après il y a eu un grand creux et Russell le dominait régulièrement, que ce soit en qualif ou en course. Là il a retrouvé du poil de la bête, je crois que c'est l'envie qui a fait la différence. Lewis même a envisagé lui-même un moment, peut-être, en tout cas c'est ce que lui-même a laissé entendre et ce que Toto Wolff laissait penser. Moi je n'y croyais pas une seconde, pour être clair. Pourquoi? Parce qu'il avait un contrat de 2 ans avec Mercedes à 70 millions par an, jusqu'à 2023. Non, on reste assis dans le baquet. Donc, ce qui compte, c'est l'envie. On pilote pas pour l'argent, on pilote parce qu'on a envie. Je crois qu'effectivement, puis il y a Fernando Alonso à 41 ans. On a vu Kimi Raikkonen aller jusqu'à 42. Disons que la Formule 1 aujourd'hui, les Formule 1 sont moins difficiles à piloter qu'elles ne l'ont été dans le passé, physiquement, même s'il faut être des athlètes, avec tout un tas d'éléments, la direction assistée, les boîtes de vitesse, etc. Donc voilà. Donc, la différence, elle se fait comme ça.
Manu, toi, est-ce que tu penses qu'à un moment donné, quand on est un sportif comme ça de haut niveau, il faut savoir s'arrêter à un certain moment quand on commence à décliner un petit peu au niveau des performances ou pas?
C'est pas qu'il a décliné au niveau des performances, c'est surtout que la voiture a été moins bonne. Parce que je pense qu'il a les capacités encore de pouvoir aller très vite. Parce que ce qu'on reproche un petit peu aux pilotes, c'est d'aller très 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 vite quand on vieillit, parce qu'on a peut-être un peu plus d'appréhension que les jeunes loups qu'il y a dans la Formule 1. Mais je pense qu'il est toujours aussi motivé et qu'il a envie de prouver que même à son âge, il peut gagner encore des Grands Prix. Seulement, il faut qu'il y ait une voiture compétitive par rapport au Red Bull et au Ferrari.
Pour rebondir, pardon, sur ce que disait Manu à l'instant, on rappelle que c'est pas terminé, il va peut-être gagner le Grand Prix ce soir, la première saison où il ne remporterait pas de Grand Prix depuis qu'il est en Formule 1, depuis 2007. Donc, il a encore effectivement quelques Grands Prix. Voilà, pour démontrer que cette règle va être respectée.
Un petit mot quand même de nos Français sur cette grille de départ au Grand Prix du Mexique. C'est une fin de saison quand même compliquée pour Pierre Gasly, notamment 14e seulement aujourd'hui sur la grille.
Eh oui, la Pierre, il est vraiment dans le tunnel là. Bon, on sait qu'il quitte l'écurie, sa motivation est toujours au même niveau, son talent aussi, déjà on va commencer par là, mais je crois que cette monoplace est tellement difficile à mener. Là il est très légèrement devancé par son équipier Yuki Tsunoda, une nouvelle fois son adversaire direct, à 8 reprises Tsunoda en qualification sur 20, donc ça veut dire que Pierre a 12 qualifications meilleures à son avantage, mais je crois qu'il est temps que la saison se termine là, vraiment qu'il parte chez Alpine, avec une très bonne monoplace, on voit ce que Esteban Ocon en fait et ce que Fernando Alonso en fait. Donc je crois que pour tout le monde, Pierre doit aspirer à ce que cette saison se termine maintenant, et il va refermer une page assez longue, d'une dizaine d'années au sein du team Red Bull.
Merci beaucoup Jean-Luc, on te retrouve à quelle heure ce soir là pour le Grand Prix?
21h pour le départ de ce Grand Prix qui encore une fois va être sous haute tension. Là vraiment tout peut arriver, là je ne vous le survends pas. Mais...
Ah non, c'est très très bien vendu.
Tout peut arriver.
C'est très bien vendu, merci.
Et Jean-Luc et Pérez, oui. Il peut remporter ce Grand Prix ou pas?
Bien
parce
sûr.
Parce qu'il est chez lui là.
Tu te rends compte que effectivement déjà quand il était monté sur le podium au Mexique, puisque jamais un pilote mexicain n'était monté sur un podium au Mexique, s'il remporte le Grand Prix, là c'est le délire.
Ça va être
je sais pas ce qui va se passer, mais là ça va être absolument génial. On peut que lui souhaiter, c'est un type sympa, bon pilote, ce serait génial, ce serait une belle histoire.
Ouais, puis sur cette ambiance-là, avec ce circuit si particulier, avec la tribune qui passe au-dessus,
puis,
là, c'est...
Et puis circuit qui porte le nom des frères Rodriguez, on sait que Ricardo Rodriguez s'était tué à 20 ans sur ce circuit en Formule 1, Pedro Rodriguez a disparu aussi, c'est le mythe de la Formule 1.
21h pour le départ de ce Grand Prix du Mexique, merci beaucoup Jean-Luc, tu seras évidemment au rendez-vous. Plaisir. On retourne à la Ligue 1, nous Manu, la 13e journée, Auxerre face à Ajaccio. Frédéric Joly, les Auxerrois qui se sont vite mis à l'abri dans cette rencontre.
Ouais, à l'abri, c'est un grand mot. Ils ont fait la différence. Enfin, une petite différence. 1-0 avec ce magnifique but d'Amzasaki à la 8e. Cette belle frappe. Oh, il est à 18 mètres, un peu plus de 18 mètres en pleine lucarne. Un peu plus, il est peut-être à 20 mètres. Enfin, tous les cas, la frappe est magnifique. Le Rouen n'a absolument rien pu faire, le portier ajaccien. Et on voit une équipe auxerroise très concentrée, surtout au niveu de la défense centrale. Manu, tu as dû jeter un œil sur les images. T'as vu l'association Janvier-Joubal, pour l'instant, ils sont intraitables.
Ils sont Oui, ils sont complètement intraitables, mais voilà, ils sont dans une organisation peut-être qui leur convient peut-être plus qu'un 4-1-4-1. Donc voilà, il y a beaucoup d'assurance et ce but va leur amener encore cette confiance. Donc il y a une équipe, mais je trouve que c'est un début de match très intéressant de la part des deux équipes parce qu'elles ne ferment pas le jeu. Donc, que ce soit les Ajaccio ou Auxerre, ils vont quand même vers l'avant. Et ça, c'est important.
Oh, la frappe de Sacchi à l'instant qui a été légèrement touchée. Il a fallu que le Roi se détende pour sortir le ballon du cadre. Elle partait bien, elle a été légèrement déviée, ce qui lui a donné une trajectoire vraiment bizarre. On sentait qu'elle pouvait prendre la direction du but et il a fallu que le portier ajaccien reste bien concentré dans cette histoire pour se détendre et nous sortir une belle claquette de la main droite, car ça aurait pu être le deuxième but de ça qui aurait été avec un peu de réussite, mais tout de même la frappe était belle. Voilà, c'est peut-être ça aussi que les Auxerrois ne proposaient pas jusqu'à là. On tente de loin, on frappe, on essaye, ça c'est important dans le football. Il n'y a pas seulement ce qui se passe devant le but avec ce corner à suivre. Une tête, oh là là, ça passe à côté. Ils ont été montés du côté de la défense auxerroise avec cette belle montée de Janvier qui était venu tenter de mettre sa tête. Il était un petit peu court. En tous les cas, la JOCR mène 1-0, but de Sacchi après 20 minutes de jeu.
Ça promet dans ce match capital dans la course au maintien. Les supporters parisiens, appelez-nous au 32-16 dans quelques instants avec Manu Amoros. On va revenir sur la victoire parisienne hier face à Troyes, mais ça a été compliqué. Et puis on parlera notamment de ce problème défensif. Supporters parisiens, est-ce que vous êtes inquiets? Venez discuter avec nous sur RMC. À tout de suite.
RMC Intégral Sport.
Flora Moussi. 13h22 sur RMC. Merci d'être avec nous dans l'Intégral Sport jusqu'à 15h avant le Multi Ligue 1 avec Salim Bongali. Nous, on suit déjà cette 13e journée avec le duel pour le maintien entre Auxerre et Ajaccio avec Manu Amoros et Frédéric Joly. Et un bon coup franc à venir pour les Corses.
Ouais, il y a eu cette faute de Joubal, le carton à suivre. Joubal, il a eu un petit instant de crainte hein, quand il a vu l'arbitre, monsieur Millot, se diriger vers lui, la main à la poche. Il s'est dit, oula, quel carton va-t-il me sortir? Et bien finalement, ce n'est qu'un carton jaune pour le défenseur central auxerrois. Il y avait une belle contre-attaque à Ajaccien suite à une occasion auxerrois. C'est reparti très vite. On a vu tout de suite les Ajacciens se projeter vers l'avant et il y a eu cette faute. Alors, on va pas parler de faute intelligente, c'est toujours un petit peu ridicule, mais en tous les cas, une faute qui a évité le pire pour les auxerrois. Manu, ça aurait peut-être pu être un petit peu plus foncé du côté du carton. Ouais. Bon, l'arbitre est resté tranquille.
Ouais, c'est de bonne guerre, je crois que quand on est comme ça.
Forcément, Manu, il va dire ça.
Ah oui,
non, ça, non, mais. Non mais tu peux pas mettre un carton rouge là-dessus, ouais. Même non, bien sûr, le joueur il le fait volontairement, sinon tu déséquilibres complètement le match. Donc à partir de là, c'est la décision qu'il a prise, elle est bonne. Même si le joueur, maintenant il va falloir qu'il fasse attention, parce que là l'arbitre n'hésitera plus à mettre le carton rouge si c'est une grosse faute.
Ouais, exactement. Et c'est vrai que Joubal du coup va jouer avec peut-être un peu plus de retenue, lui oui. Qui jusqu'à présent était impeccable et qui n'hésitait pas à mettre l'épaule ou à s'imposer physiquement. Là avec un carton après 23 minutes, peut-être que Joubal va être un petit peu plus dans la retenue, mais bon, il pourra sans doute compter sur Janvier, l'autre défenseur central de cette équipe auxerroise, pour venir lui fouler un coup de main au cas où. Et le coup franc n'a absolument rien donné, c'était joué au second poteau et la tête ajaccienne est passée complètement à côté du but de Costil, qui est titulaire une nouvelle fois dans les buts. On savait pas trop avec l'arrivée de Pélissier, on se disait est-ce qu'il va continuer à faire confiance à Costil ou est-ce qu'il va donner sa chance à Léon. C'est vrai que Costil vient jusqu'à présent, oui. Même s'il a pris pas mal de buts, Manu, on peut dire qu'il a souvent quand même évité le pire et voire sauvé la baraque.
Oui, et puis il a quand même une grande expérience à ce niveau-là, donc il peut être très utile pour sa défense et pour ses partenaires avec ce changement d'entraîneur.
24 minutes de jeu, la JOCR mène 1-0, ce depuis la 8e minute. Hamza Sacchi nous a offert une petite merveille en pleine lucarne ajaccienne et les Auxerrois enfin là il y a une main oui, du côté d'Acosta, on a manqué un petit peu le contrôle, c'est venu rebondir sur la main, ça n'a pas manqué à l'arbitre de la rencontre. 1-0 pour la JOCR après 25 minutes de jeu au stade Abbé Deschamps.
Une folle journée de Ligue 1 qui vous attend aujourd'hui sur RMC avec le multi à 15h autour de Salim Bongali, avec notamment Monaco et Rennes sur les pelouses, Lorient-Nice à 17h05, et puis ce soir dans l'after l'affiche entre Lyon et Lille. Et si cette journée est aussi emballante que celle d'hier, on va se régaler, Manu, parce que le PSG a tremblé hier au Parc des Princes, mais comme souvent il a pu compter sur son trio magique pour s'en sortir. Mehdi, supporter parisien, est avec nous au 32-16. Salut Mehdi.
Salut Mehdi.
Salut Manu. Salut Mehdi.
Mehdi, est-ce que tu t'attendais à voir ton PSG trembler comme ça à domicile face à Troyes?
Franchement, non. Non, mais aucun supporter du PSG peut dire que quand ils sont venus à trembler devant trois, c'était effectivement, ils ont super bien joué. Moi, ils m'ont même étonné. Ouais. Ils ont su prendre les espaces derrière la défense qui était vachement haute, jouer en contre. C'est un peu notre défaut. Et derrière tout ça, voilà, ils ont exploité chaque action et ils ont pu les mettre au fond. Donc non, ils ont super bien joué. Après, voilà, il a fallu aussi faire preuve de caractère du côté du PSG. À chaque fois, on a été mené au score, on a su revenir. Bon, voilà, c'est l'équipe est en train de prendre forme. Moi, j'aime bien ce caractère-là. Honnêtement, ouais. Ça laisse voilà.
Mehdi, je te rassure, la France entière ne pensait pas que Paris Saint-Germain allait prendre trois buts, hein, quand même.
Ah, mais exactement, surtout
et surtout le premier à la troisième minute, hein, donc, après, comme tu le dis, trois à profiter des largesses défensives. Alors, quand on parle défensif, c'est quand même aussi le bloc défensif. C'est que les trois de devant ne se sont pas replacés. Les trois au milieu, ils ont pris l'eau. Et puis, il y a les intervalles chaque fois qui a été bien pris par les Troyens. Donc, à partir de là, ils ont mis en difficulté cette défense qui n'était pas non plus au marquage et qu'ils ont laissé des largesses aux attaquants. Donc voilà, mais on a vu un match très intéressant aussi. Hein.
Ah non, mais après, le match a été très intéressant. C'était, enfin, à bout d'un moment, les équipes étaient un petit peu coupées en deux parce que je pense que le PSG aussi a pris le match à pied levé. Hein. Ils ne l'ont pas très bien pris au sérieux.
On va rappeler, quand même, Mehdi, que c'est un match de Ligue 1 entre deux matchs de Ligue des Champions. C'est jamais simple aussi à aborder.
Tu sais, quand tu reçois Troyes, qui n'est pas une équipe du championnat français, même si elle est là, elle est présente, elle se bat pour se maintenir, la plus performante en championnat. Et à partir de là, tu as toujours une baisse, tu te décompresses complètement, tu les sous-estimes un tout petit peu, parce que tu as fait un match de Coupe d'Europe vraiment très, très, très bien, très fort, avec beaucoup de buts, beaucoup de jeux. Et là, tu décompresses complètement, tu dis ça va être facile et on voit que c'est pas facile de rencontrer souvent les équipes inférieures.
Le gros point noir, on l'a dit, hein, c'est la défense. On va juste écouter Christophe Galtier-Médi et puis après je t'écouterai. La défense qui avait encaissé seulement 5 buts jusque-là en Ligue 1, ils en ont pris 3 d'un coup dans un seul match. La bonne nouvelle, c'est que jusque-là le PSG arrive toujours à inscrire plus de buts qu'il n'en concède, mais Christophe Galtier, lui, il se rend bien compte quand même du problème défensif actuel.
On va travailler, on a pris 3 buts ce soir, c'est plus que ce que nous avions pris depuis le début de la saison en championnat. Nous avons pris 5 buts dans la semaine, c'est vraiment beaucoup trop. Certes, on en a marqué 11, et évidemment que nous allons travailler, évidemment que je vais en parler avec mes joueurs, mais on va le travailler, on va le corriger, parce que avec la qualité offensive que nous avons, on doit s'interdire de donner la possibilité à l'adversaire d'espérer. Et dans ce sens-là, il y a des positions, il y a des équilibres très stricts. Et il faudra une extrême rigueur, une grande exigence aussi sur un plan de la réflexion pour ne pas renouveler ce genre d'erreur.
Ouais, Mehdi, on les a vus surtout fébriles aussi cette semaine face à Haïfa en Ligue des Champions sur les coups de pied arrêtés notamment. Défensivement, ils prennent beaucoup de buts sur les phases arrêtées comme ça. Quelle solution pour toi, Mehdi?
Il faut quand même noter le retour de Kimpembe qui après longtemps n'a pas joué. Le faire rentrer, le mettre titulaire d'entrée de jeu comme ça, je pense que voilà, il pouvait pas d'entrée de jeu faire un match parfait. On l'a vu sur le deuxième but où il est à 2 mètres de son attaquant, et il n'a pas le droit de le laisser se retourner et frapper. Là-dessus on est tous d'accord. Maintenant, comme tu l'as dit, c'est un match entre deux matchs de Ligue des Champions, c'est 3, c'est pas le trio premier du championnat. Donc on va se dire que il y a eu c'est un match qui a été pris entre guillemets à la rigolade. Le sérieux n'y était pas. On a vu que le trio offensif ne défendait pas comme il défendait d'habitude. La défense, malheureusement, Bernat beaucoup 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 trop haut. Moukele sur le premier but, pour moi c'est pour lui. On peut pas non plus être parfait. Il a fallu peut-être ce match-là pour repartir de plus belle au niveau de la défense, enfin surtout au niveau du secteur défensif. À partir de là, on fera les choses correctement et puis voilà.
Ouais, Manu, le retour de Kimpembe pour toi, est-ce que ça engendre le retour d'une défense à 3 ou pas?
Sûrement, à mon avis, sûrement. Parce que Christophe Galtier, à mon avis, va pas laisser de côté Ramos ni Marquinhos de pouvoir ne pas jouer, surtout dans des grands matchs importants. Je pense qu'il va repasser une défense à 3 derrière. Après, tu sais, c'est une question de motivation aussi, parce que les joueurs, ils savent qu'ils peuvent s'appuyer sur une attaque qui peuvent marquer à n'importe quel moment. Ils peuvent faire gagner un match à n'importe quel moment. Quelque part, après, il faut faire des choix défensifs importants. C'est-à-dire que Vitinha et Verratti, il faut vraiment qu'ils restent dans l'axe. Alors qu'on a vu Verratti et Vitinha vraiment aller vers l'avant et Soler se retrouver des fois souvent tout seul. Donc, c'est des petits ajustements qu'il va falloir que Galtier puisse faire dans ce milieu de terrain et dans le rôle défensif des uns et des autres.
Merci beaucoup Mehdi d'avoir été avec nous, supporter du PSG. Belle journée à toi et rendez-vous mercredi pour la Ligue des Champions face à la Juventus. Ce sera évidemment à suivre sur RMC. Retour à la Ligue 1, nous Manu avec Auxerre Ajaccio. Ça se passe en ce moment à la Baie des Champs. Frédéric Joly, les Auxerrois à l'attaque.
Un ballon qui a été récupéré malheureusement entre-temps par les Ajacciens et Auxerre mène 1-0 et on a vu une contre-attaque, une petite merveille de contre-attaque auxerroise avec une récupération de Da Costa qui glisse pour Sinayoko qui est parti entre deux défenseurs ajacciens, la course croisée des deux joueurs et la remise de Sinayoko vers Da Costa et ensuite Da Costa a vu sa frappe stoppée par le Rouen, mais c'était vraiment une action dans le jeu, une action en mouvement. C'est un peu ce que demande Christophe Galtier, lui qui disait prendre du plaisir dans le jeu avec une âme de guerrier. C'était un petit peu sa petite phrase lors de la conférence de presse d'avant-match. En parlant de guerrier, on a vu Mensah traverser complètement le terrain, lui qui est latéral gauche, pour venir tacler El Idrissi qui était parti sur le côté gauche. Un tacle très 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 sévère, enfin pas sévère mais en tous les cas très impliqué le défenseur auxerrois. Chez Manu, je sais pas si tu as vu cette
très agressif on dit.
Ah mais c'est agressif dans le bon sens du terme.
Oui, c'est ça dans le bon sens, parce que le joueur il s'est relevé, il y a pas eu de problème. Donc c'était un tacle agressif, mais voilà, il faut qu'il y ait des duels et de l'agressivité aussi dans le football, mais bien sûr toujours dans le bon sens. Mais malheureusement des fois il y a un pied qui traîne, mauvais coup, mais ça fait partie aussi du jeu.
Et tu as vu en même temps les images de la contre-attaque auxerrois, cette course croisée, c'était pas mal amené de la part de Da Costa. Ouais.
Non, mais on voit les auxerrois qui ont une façon de jouer qui est complètement différente, mais qui vont, ils défendent en avançant. Donc ça, c'est important aussi, parce que le fait de défendre en avançant, ça permet d'être assez haut et de pouvoir contrer les Ajacciens assez haut et de pas faire circuler le ballon.
À 18e contre le 19e, mais pourtant on assiste à une belle rencontre.
C'est intéressant, intéressant.
C'est un beau match. On avait peur de voir deux équipes qui ne vont pas de l'avant, qui marquent pas.
Floral avait beaucoup de craintes, Fred. Elle nous l'a pas dit, mais on l'a senti.
Je ne suis pas sûr de toi.
Un match de 13h en Ligue 1, l'affiche n'est pas toujours la plus belle, mais souvent on n'est pas trop mal loti quand même.
Oui, depuis Toulouse-Angers, je crois, non?
Exactement, c'était ça.
Il faut venir à la Baie des Champs, tu vois, il se passe des choses.
Exactement.
Des belles rencontres. 1-0 pour Auxerre en tous les cas. Alex, le ballon Sinayoko qui est bien intervenu, qui a voulu prolonger, mais attention, c'est récupéré sur le côté gauche. Belaïdi qui va pouvoir centrer, il est marqué de près, évidemment on se méfie comme du lait sur le feu de ce Belaïdi. On connaît sa technique, il est extraordinaire. Alors en dehors du terrain, il ne doit pas être simple à gérer, mais alors sur le terrain, qu'est-ce qu'il est fort. Il a un pied gauche exceptionnel, Belaïdi d'ailleurs, qui va récupérer cette touche. Il va aller défier, on est bien en place. Le centre finalement, ce sera dégagé trop bien que mal par la défense au Serroiseau. Sermène 1-0, 34 minutes de jeu. Saki a marqué pour la GIA.
On a parlé du PSG dans quelques instants. On va évoquer l'OM hier soir face à Strasbourg. On revient dans quelques instants avec Manu Amoros sur le nouveau coup d'arrêt des Marseillais qui n'avancent plus en Ligue 1. Supporter de l'OM, appelez-nous au 32-16. Manu, il a plein de choses à dire sur la question. On vous attend sur RMC dans l'Intégral Sport. À tout de suite.
RMC Intégral Sport.
Flora Messi. 13h36 sur RMC, merci d'être avec nous dans l'Intégral Sport. On suit la 13e journée de Ligue 1 avec Manu Amoros du côté de la Baie des Champs, entre Auxerre et Ajaccio. Frédéric Joly, les Auxerrois bien installés pour le moment dans cette première période.
Ouais, ils mènent 1-0, mais ils se sont fait un petit peu peur il y a quelques instants. Un centre de Youssouf, et il y a une petite mésentente entre Costil et Joubal, petit manque de communication entre les deux joueurs, et le ballon a été sorti par Joubal, mais c'est passé juste à côté du but de Costil. On est dans la surface de réparation auxerroises. Oh là, il est en train de nous mettre la misère là sur le côté Belaïli. Un petit coup à gauche, un petit coup à droite. On le disait, Manu, quand il a le ballon dans les pieds et qu'il est aux abords ou dans la surface de réparation, c'est un vrai poison.
Oui, ouais, c'est un vrai poison. C'est un joueur qui a des grosses qualités techniques et puis il remue bien. Donc, c'est un peu dommage que les Ajacciens n'appuient pas davantage les actions parce qu'on les sent capables de revenir au score et on les sent capables de jouer au football. Donc, c'est un peu dommage que l'arrière, les milieux et les défenseurs ne poussent pas assez ces actions.
Ouais, on voit surtout Belaïli qui fait un énorme travail. Il est à gauche, il est à droite, il est dans l'axe, il est un petit peu partout, mais le football, c'est à 11. Donc, c'est vrai que peut-être que d'autres joueurs devraient un peu plus s'investir. On voit tout de même que quand les Ajacciens partent en contre-attaque, ça va vite hein, avec Eldrissi.
C'est pour ça que ça va trop vite. Ça va trop vite, ils n'arrivent pas à suivre. C'est un peu dommage, quoi.
Il y en a qui sont en cinquième et il y en a qui sont en deuxième. Donc évidemment, ils vont pas à la même vitesse.
Et oui, on peut pas ralentir hein. Quand on part en contre-attaque, il faut aller très 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 vite.
Hein. C'est ça. Et quelques garçons vont vite comme Eldrissi, Moussiti, Oko, Belaïdi. Et puis parfois, il y a Bayala hein, sur le côté droit qui fait un bon travail. Ouais. Mais on a du mal à suivre derrière avec le corner à suivre pour la JOCR. 38 minutes de jeu, 1-0 pour la JOCR. Le coup franc de le corner de haute traite. Oh là là, la tête, elle passe juste au-dessus. Oh, c'était bien vu en tous les cas hein. c'était pas vraiment au premier poteau, c'était fort, c'est-à-dire que sur ce type d'action c'est compliqué pour le gardien de sortir, ça arrive très très vite et il y avait Da Costa qui est venu mettre une tête qui est passée un petit mètre au-dessus du but de Leroy.
Merci beaucoup Fred, on va rester évidemment du côté de la Baie des Champs avec toi, on va suivre la fin de la première période dans quelques instants. Juste Manu, quand même, c'est vrai que c'est pas facile en ce moment pour ton OM, une seule victoire hein, sur les 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Marseille dégringole au classement en Ligue 1 et encore Lille et Monaco n'ont pas joué, donc ça pourrait être même pire. Nouveau coup d'arrêt hier face à Strasbourg et pourtant l'OM a quand même dominé ce match, notamment en première période. Ils ont mené 2-0 avant de se faire reprendre en toute fin de match. Alors certes, c'est un chef-d'œuvre de Kevin Gamero, mais quand
contré,
même...
Contré, hein.
Oui. En plus.
Non, le ballon, il est contré, hein, parce que sinon, je ne sais pas si Lopez n'arrête pas ce ballon, mais ce n'est pas sûr. Mais c'est une prise de risque qui était importante pour Gamero et il a bien réussi ce tir et ce but magnifique.
Ouais, mais c'est vrai que la prestation de l'OM sur un match comme ça, mener 2-0 avec autant de domination, il y a tellement mieux à faire.
Oui, il y a deux visages de l'OM. Comme la semaine dernière, il y a eu une superbe première mi-temps où il y a beaucoup d'occasions. Malheureusement, ils n'arrivent pas à les concrétiser. Là, c'est pareil. Au bout de quelques minutes, ils arrivent à marquer deux buts et ils n'arrivent pas à tenir le résultat. Alors, il y a une occasion à la 59e minute où Payet il centre pour Under et c'est la balle de 3-0. S'il la met au fond, je ne pense pas que les Strasbourgeois reviennent au score, mais il n'a pas marqué. Et c'est ça, le gros problème aujourd'hui de Marseille, c'est quand ils peuvent faire le break, ils n'y arrivent pas à le faire. Et là, ils s'exposent à ce que l'équipe adverse revienne.
Ouais, si jusque-là, Igor Tudor voulait rester un positif sur la performance de ses joueurs malgré l'absence de victoire, et bien cette fois-ci, il a dû se rendre un petit peu à l'évidence.
Je suis particulièrement triste et déçu ce soir. En première mi-temps, on devrait gagner 5-0 et même avec le 2-0, ça ne suffit pas. Et ce n'est pas une question de pression ou pas. On doit finir et tuer le match. Si on reste derrière le ballon, il n'y a aucune chance pour l'adversaire de marquer deux buts sur la fin de match. Ce sont deux buts donnés vraiment beaucoup trop facilement.
Il y avait beaucoup de changements au coup d'envoi, on va quand même le rappeler aussi pour l'OM. Ça marchait très bien jusqu'à ce que Tudor finalement décide de faire entrer de nouveaux joueurs qui ont précipité un petit peu finalement la chute de l'OM dans ce match. On va viser personne, alors je vais donner un nom quand même, Nuno Tavares notamment, son entrée en jeu. C'est vrai que Jonathan Clauss est tellement étincelant que forcément la comparaison elle n'est pas flatteuse.
Non, elle est pas flatteuse, mais voilà, mais c'est un ensemble. Là, il a pu mettre hier aussi Dieng et Under en attaque, deux possibilités d'attaque qui sont intéressantes parce que Dieng qui prend la profondeur, Under qui joue plus dans les pieds et qui donne des bons ballons et qui bouge aussi énormément. Donc il y avait pas mal de solutions de ce côté-là. Puis les deux joueurs Dieng et Under ont été bons quand même dans l'ensemble. Puis après, c'est vrai que quand tu mènes 2-0, pourquoi tu fais des changements aussi vite que ça et surtout à la mi-temps. Il y a une organisation qui se plaît dans cette, qui était bien organisée et qui se plaît là-dedans. Et là, d'un seul coup, on change. Je ne sais pas, des fois, Tudor, on a l'impression qu'il veut perdre les matchs ou il veut faire match nul parce qu'il change tellement de fois de façon de faire et il change tellement de joueurs que tu as l'impression qu'il ne veut jamais gagner les matchs.
Ouais, et peut-être aussi.
C'est l'impression que qui me donne.
Mais après, Roland était d'accord avec toi hier quand on a parlé de l'OM. Et c'est vrai que Tottenham était peut-être aussi déjà dans les têtes. Manu, il y a un match capital, on va le rappeler, pour les Marseillais mardi soir en Ligue des Champions face aux Londoniens. Ça va décider de l'avenir européen cette saison des Marseillais. Est-ce que c'était déjà dans un coin de la tête? Parce que quand Tudor fait ces changements aussi vite dans le match, c'est aussi peut-être pour préserver notamment Jordan Veretout, Jonathan Clauss pour ce match-là.
Je suis d'accord, on peut le comprendre aussi parce qu'il mène 2-0. Oui. Il ne pense pas qu'en sortant. Il a sorti
Veretout, Clauss.
Veretout et Clauss et Rongier et Tavares qui sont rentrés. Ils ne pensaient pas non plus que les Strasbourgeois, parce qu'avant ces changements en première mi-temps, ils avaient quand même la maîtrise. Donc ils ne pensaient pas que Strasbourg allait revenir. Mais on peut toujours penser que ces changements, il aurait pu les faire au bout d'une heure, au bout de 70 minutes de jeu, pour rassurer vraiment et de contenir le résultat.
Ouais, et c'est vrai. Et Manu, on va quand même rappeler l'importance du match de Ligue des Champions face à Tottenham. L'OM pourrait être éliminé de toute compétition européenne, comme on va le rappeler. Ce serait une catastrophe quand même dans ce début de saison-là.
Oui, ça serait une catastrophe, mais je crois qu'il faut prendre les matchs un par un et comme ils viennent. Je ne sais pas s'ils avaient. Alors oui, t'as toujours au fond de ta tête le match très important qui peut sauver ta saison pratiquement, parce que financièrement, si tu passes les poules, tu as beaucoup d'argent qui rentre. Donc c'est vrai que c'est très 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 important, que ce soit pour les joueurs et pour le club et pour les supporters aussi, parce que c'est très important pour les supporters de retrouver un huitième de finale. C'est l'assurance d'avoir le stade de plein et l'assurance de rencontrer un grand club. Mais voilà, les matchs, il faut bien les jouer. Et quand on mène 2-0, c'est pas normal que de se faire remonter, d'être 2-2. Surtout qu'il y a des opportunités, il y a des occasions à marquer des buts supplémentaires.
Ouais, rendez-vous donc mardi soir en Ligue des Champions face à Tottenham pour savoir quel sera l'avenir européen des Marseillais. Manu, on aura évidemment un œil avisé sur ce match. La forme...
Ouais, mais Flora, ils ont été Tottenham aussi. Ont été dans des grosses difficultés.
Bien sûr, même s'ils ont gagné en toute fin de match hier face à Bournemouth, mais c'est vrai que ça a été compliqué ces derniers temps pour Tottenham, donc il y a vraiment de l'espoir pour les Marseillais. On va vivre la fin de la première période entre Auxerre. J'ai fait un petit mix des deux, Frédéric Joly. J'ai fait Auxerre face à Ajaccio.
Voilà, ouais, on avait compris, Flora.
C'est vrai, tu me rassures.
Ouais, toujours 1-0 pour cette équipe d'Auxerre, à moins d'une minute de la fin du temps réglementaire. Il y a eu un petit flottement, une petite réclamation de la part des Auxerrois, puisque Nyang s'est retrouvé un peu pris en sandwich dans la défense, dans la surface de réparation ajaxienne, mais ça n'a pas duré longtemps. Monsieur Benoît Mio a mis sa main à l'oreille pour avoir confirmation qu'il n'y avait absolument pas pénalty. Ça n'a pas duré bien longtemps. Le ballon en surface de réparation, c'était loin, c'était vers Moussiti Oko. Finalement, Costil, parfait, et avait bien anticipé pour venir prendre tranquillement cette balle des deux mains vers Nyang. Ça, c'est bien vu. Nyang qui est venu devancer Youssouf. Alors, attention à cette remise derrière. C'est parfois un petit peu risqué, hein, les passes en retrait de ces Auxerrois, alors qu'il avait fait le plus dur, hein, Manu, en venant chipper le ballon et fait une passe, pratiquement une passe dans la course de l'Ajaxien.
Oui, surtout que à peu près à une minute de la fin de cette première mi-temps, il faut pas faire des erreurs comme ça, parce que ça peut coûter très cher et rentrer à un, alors que Auxerre, on a l'impression quand même qu'ils maîtrisent bien leur sujet et ce système-là. Voilà, il faut pas donner des ballons à l'adversaire.
Non, c'est ça, tout à fait. Avec cette balle qui avait tenté d'être donnée sur Da Costa, finalement il a glissé un petit peu, il a perdu ses appuis, ça a été récupéré par Koné du côté d'Ajaccio. Il y aura une minute de temps additionnel, il reste 30 secondes à jouer sur cette minute de temps additionnel. Peut-être le débordement de Bayala, et finalement il faut l'intervention de Mensah pour mettre le pion en opposition et permettre aux Ajacciens de bénéficier d'un corner, sans doute le dernier de cette première période. Belaïli évidemment pour aller le tirer, ce corner, il se précipite vers le ballon, le point de corner. On est tous revenus évidemment en défense du côté de la JOCR, jouant de temps. Belaïli qui remet la tête, ça va revenir dans les pieds ajacciens avec cette balle vers Marchetti, et finalement le coup de sifflet de monsieur Mio pour envoyer les deux équipes au vestiaire. La JOCR mène 1-0 grâce à ce but de Hamza Saki. Une belle première période, n'en déplaise à Flora.
Oui, je suis très heureuse de cette première période, messieurs, mais c'est vrai que Manu...
Mais oui, sinon tu ne ferais pas le 13h, Florent.
Exactement.
Tu ne serais pas avec nous.
Ben oui, on aime cette affiche du 13h en Ligue 1. Et c'est vrai que là, pour le moment, les Auxerrois font une bonne première période. Ouais. Et l'arrivée de Christophe Pélissier, mine de rien, pour le moment, ça marche.
Ben oui, ça marche. Un positionnement tactique différent. Les joueurs qui intègrent parfaitement ce schéma. Et voilà, on a vu du jeu, on a vu des occasions, des opportunités. Ajaccio ben aussi, pareil. Hein, Ajaccio ne recule pas, essaye d'avancer, essaye de se créer des occasions. Et puis voilà, ça reste une très bonne première mi-temps.
Ouais, on verra si la deuxième est dans les mêmes standards. On le souhaite en tout cas, ce sera évidemment aussi dans l'Intégral Sport. Et puis dans quelques instants, on va aussi évoquer avec Manu Amoros l'affiche qui vous attend ce soir dans l'after à 20h45, Lyon face à Lille. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport. RMC Intégral Sport.
Flora Messi.
h 53 sur RMC. Merci de nous rejoindre dans l'Intégral Sport. Je suis toujours avec Manu Amoros. On suit Auxerre-Ajaccio. On est à la pause pour le moment de ce match de la 13e journée de Ligue 1, avec une très grosse journée en Ligue 1 sur RMC. En ce moment même, donc Auxerre-Ajaccio, le multi à 15h avec 4 affiches au programme, et notamment Monaco et Rennes. On va vous présenter toutes ces affiches tout à l'heure. Et puis il y aura Lorient-Nice à 17h05 avant l'affiche ce soir à 20h45 dans l'after. Lyon face à Lille avec Edouard Jay au commentaire. Salut Edouard.
Bonjour Flora.
Bonjour. Salut Manu. Edouard.
Bonjour à tous.
Salut. Edouard, j'ai envie de dire enfin une victoire pour l'OL le week-end dernier face à Montpellier après 6 matchs de suite sans succès en Ligue 1. Va falloir confirmer aujourd'hui. Et avec quels hommes, tiens, est-ce que tu as déjà une idée?
Alors au niveau de la compo, on devrait avoir le même schéma que la semaine dernière, c'est-à-dire une défense à 3 ou à 5, hein, selon vous considérez les pistons comme des défenseurs ou plutôt des attaquants. Un seul homme va changer dans cette organisation. C'est Sinali Diomandé qui est suspendu, donc obligé d'être absent du groupe. Et a priori, c'est Damien Da Silva qui va le remplacer. Donc ça nous donnerait Anthony Lopez dans les buts, Damien Da Silva, Jérôme Boateng, Castello Luqueva pour les trois défenseurs centraux. Nicolas Tagliafico, l'international argentin, côté gauche, donc de Piston avec Malo Gusto son pendant à droite, au milieu défensif Maxence Cacré et Thiago Mendes, et puis en soutien d'Alexandre Lacazette et de Moussa Dembélé, Oussem Aouar. Voilà pour normalement le 11 que va mettre en place ce soir Laurent Blanc devant un stade, Flora, Manu, qui sera plein, 55 000 personnes. C'est dire s'il y a un petit enthousiasme à voir des supporters lyonnais à voir leur équipe après la victoire de la semaine dernière, avoir fait arrêter cette spirale de 6 matchs sans victoire, et notamment ces 5 défaites.
Ouais, on t'entend pas super bien, Edouard, ouais. Mais c'est vrai que Manu, on va rappeler que c'est quand même la première à domicile aujourd'hui pour Laurent Blanc, dont la patte d'ailleurs commence à se mettre quand même en place. On le voit avec des choix forts autour d'hommes qui sont de retour, Boateng, Awars. Il construit aussi son équipe et le renouveau de cette équipe autour de ces hommes-là.
Oui, moi j'aimerais poser une question à Ola. C'est est-ce qu'il ne regrette pas de ne pas avoir pris Laurent Blanc plus tôt?
Plus tôt.
Voilà.
Ah, peut-être
oui.
qu'il avait essayé.
Tu sais qu'on en parlait avant Garcia, ils en parlaient. Après Garcia, ils en parlaient aussi. Et ça s'est pas fait, mais c'est un peu dommage parce que Laurent Blanc, c'est quand même un super entraîneur et il a une vision du jeu quand même qui est fantastique. Je pense qu'il a relancé cette équipe de Lyon. On les avait vus contre Rennes où ils ont perdu 3-2, mais ils avaient fait quand même un très bon match dans l'ensemble, dans un schéma tactique complètement différent, avec des joueurs qui jouent vraiment à leur poste, parce que Mendes qui jouait défenseur central, c'était vraiment pas son poste, il était plutôt milieu terrain, plutôt défensif. Là il a rejoué Aouar. C'est quand même un technicien, c'est quelqu'un qui sent le ballon, c'est quelqu'un qui peut faire jouer ses partenaires, il prend des initiatives, et derrière il y a Boateng aussi qui revient, et c'est important aussi d'avoir un chef, un maître là-dedans qui a de l'expérience. Donc voilà, il a recomposé son équipe dans la difficulté, parce que moralement, psychologiquement, c'était pas une équipe qui était compétitive. Donc il a fallu redonner un peu tout ça à cette équipe-là, et il a très bien fait depuis qu'il est là.
Et oui, qui dit arrivée d'un nouvel entraîneur, généralement dit des possibilités pour des joueurs écartés de se relancer, avec toujours un objectif pour Laurent Blanc, continuer de progresser.
Il y a peut-être les cartes qui sont un peu rabattues, redistribuées, si j'ose dire. Et donc
tout le monde a intérêt de se montrer sous son meilleur visage. En termes d'intensité, en termes d'implication, l'entraînement est déjà meilleur. Après, ce qu'on leur propose, ça a l'air de leur plaire. Là, contre une équipe de Montpellier qui avait à peu près les mêmes difficultés que nous, hein, il faut pas croire, hein, je pense que bon, on a répondu de la meilleure façon à Montpellier. Mais en termes de contenu, c'était pas mal. Il faut progresser, il faut continuer, il faut surtout pas se contenter de ça.
Manu, tactiquement parlant, oui, mise en place, oui, d'un 3-5-2, hein, par Laurent Blanc, qui commence à porter ses fruits.
Ben oui, toute manière, avec Lagazette et Dembélé devant, c'est deux joueurs qui s'entendent très bien, qui sont complémentaires en plus, avec Aouar juste derrière, et puis Gusto et Tagliafico, pardon. Ouais. Ça amène beaucoup de punch, et puis la défense est sécurisante aussi, donc voilà, c'est un ensemble, mais un ensemble qu'il fallait redonner confiance, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas une équipe du jour au lendemain, c'est pas des joueurs, des mauvais joueurs, c'est des très bons joueurs, simplement. Ben, quand tu perds, t'as plus cette confiance, t'as l'entraîneur qui doute aussi, les entraînements ne sont pas bons, les matchs, on les enchaîne, ils sont pas bons non plus, tu perds, tu fais match nul, il y a le public qui te soutient plus, et il faut repartir dans la meilleure des cas, parce que la saison est encore longue, et Lyon, avec l'arrivée de Laurent Blanc, peut, je pense, finir dans les quatre premiers.
Ouais, 13h58 hein, sur RMC, on est à la mi-temps d'Auxerre Ajaccio. La seconde période dans quelques instants, on évoque l'affiche ce soir en Ligue 1 entre Lyon et Lille. Édouard Jay, un enjeu important quand même pour Lyon, s'il veut rester dans la course à l'Europe, une victoire permettrait aujourd'hui à l'OL de revenir à 2 points des Lillois et de la 6e place, donc gros enjeu aujourd'hui pour Lyon. Hein.
Oui, gros enjeu dans ce match et puis les deux prochains. Il y aura le match à Marseille, il y aura la réception de Nice avant la Coupe du Monde. Donc, ça sera le 11 novembre. Donc, dans les deux petites semaines qui viennent, il y a beaucoup d'enjeux comptables pour essayer de grappiller des points, en sachant que, comme Laurent Blanc l'a dit depuis le début, donc sa prise de fonction le 10 octobre, il l'a répété lors des points presse, sa vraie patte, elle viendra une fois qu'il aura repris l'entraînement le 25 novembre avant les matchs du 28 décembre du côté de Brest. Donc ça sera la deuxième partie de son travail, mais essayer de récupérer des points. Et on sent, Manu, tu parlais de confiance tout à l'heure, tu vas pas me démentir, bien évidemment, parce que tu as dû vivre ce genre de choses. Alors, on voyait des joueurs lyonnais, mais complètement absents, le regard un petit peu dans le vide, le dos voûté, ils regardaient plus leurs chaussures. Et moi, vendredi, quand je les ai vus à l'entraînement, il y avait déjà un petit peu plus de sourire, il y avait on regardait plus devant, il y avait plus d'entrain. Et Laurent Blanc, en conférence de presse, parlait de plaisir retrouvé un petit peu par ces joueurs, et ça c'est très très important pour mettre sa patte.
Un mot de... Bah, ouais, vas-y Manu, vas-y.
Non, c'est vrai que c'est important, tu sais, on dit souvent tu joues comme tu t'entraînes. Si tu es joyeux aux entraînements, si tu es gay, si l'entraîneur fait tout pour pouvoir, l'entraîneur et son staff technique aussi, parce qu'il n'y a pas que lui, il y a tout le staff technique qui est important à l'approche des matchs et à l'approche des entraînements. Si tout le monde est confiant, si tout le monde rigole, parce qu'il faut rigoler aussi, il ne faut pas rester dans un état où tu n'y arrives plus, tu t'enfonces, et quand tu t'enfonces, tu n'arrives pas à te relever. Là, il a donné une joie supplémentaire, il a fait revivre ce groupe qui en avait bien, 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 bien besoin.
Un mot quand même, Manu, sur Lille, en très grande forme en ce moment, 3 victoires de rang, et un Rémi Cabella à retrouver. Hein.
Oui, c'est une équipe qui a eu des difficultés au début de notre championnat, mais qui revient avec des joueurs de qualité. Alors Fonseca a remis une certaine façon de jouer et une volonté aux joueurs, parce que c'est pas facile comme ils jouent, hein, parce que ça demande pas mal physiquement. C'est un bloc qui descend et qui monte ensemble, et dès qu'il y a une petite défaillance, il y a des problèmes. Mais voilà, ce groupe vit bien et amène vraiment une capacité et un bloc lillois à pouvoir être performant.
Quelques infos compos peut-être, Edouard, du côté de Lille pour ce soir?
Alors c'est surtout devant où il y a des interrogations, puisque Bamba est incertain, tout comme Adam Ounas. Donc a priori ça va être Bayo qui va être en pointe, avec justement Cabella. Jonathan David serait plutôt côté droit de l'attaque, avec Timothée Weah. Pour le reste, c'est l'équipe type après a priori du côté de Lille. Voilà, les incertitudes c'est plutôt devant, mais il y a quand même toujours vraiment beaucoup de pouvoir offensif chez les nordistes, qui peuvent avoir aussi une stat, et ça peut compter. Imaginez-vous que depuis que le grand stade, le Groupama Stadium existe, c'est-à-dire janvier 2016, on en est à presque 7 ans, et bien imaginez-vous que Lille n'a jamais perdu. En 6 matchs, il y a eu 5 victoires et un seul nul. La seule défaite, c'est une élimination en Coupe de la Ligue. Pour le reste, voilà une équipe qui est invaincue. Et la dernière fois que Lyon avait gagné contre Lille, ça remonte au 5 octobre 2014, il y a 8 ans. C'était un triplé d'Alexandre Lacazette. Donc ça peut aussi porter des Lillois en plus de ces 3 victoires consécutives qu'ils ont à l'instant T.
Oui, et puis en plus de l'objectif
pour
aussi...
Pour les amoureux de stats, c'est bien.
Oui, alors peut-être que les Lyonnais ne vont pas regarder ces stats-là parce que ça va pas être très encourageant pour
eux. Et Lille non plus, je pense.
Oui, on ne prépare pas un match évidemment avec ce genre de statistiques. On va plutôt regarder le classement où Lille, s'il s'impose, bien, reviendrait aussi proche du podium. Et c'est ça aussi l'objectif, Manu, pour les Lillois cette saison. Hein.
Bien sûr. Lille veut rejouer la Coupe d'Europe et la Ligue des Champions parce que c'est la plus belle. Mais voilà, ils ont besoin de glaner des points à droite et à gauche. Et c'est un déplacement qui est compliqué, difficile parce que Lyon revient très 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 bien. Mais voilà, ça va être un beau match à voir et avec énormément de buts, on l'espère.
Merci beaucoup, Edouard. On te retrouve évidemment ce soir dans l'after, 20h45 pour le coup d'envoi de ce Lyon Lille. L'affiche de cette 13e journée de Ligue 1 qu'on suit en ce moment avec Auxerre face à Ajaccio. Frédéric Joly, c'est reparti en seconde période.
Depuis 30 secondes, le coup d'envoi de cette seconde période alors que la JOCR mène 1-0 et ce but inscrit par Hamza Saki à la 8e. Les Auxerrois qui sont en possession du ballon. Il n'y a pas eu de changement, que ce soit du côté Auxerrois ou du côté Ajaccien. Pas de changement de part et d'autre avec ce dégagement de la défense ajaxienne, le contrôle un petit peu manqué, mais il s'est bien repris. Moussi Tioko, il a un petit peu manqué son contrôle, finalement il a pu récupérer cette balle. On fait bien tourner du côté d'Ajaccio, cette balle dans la profondeur, c'est bien vu dans la profondeur pour El Idrissi qui se retourne. On est bien revenu du côté de la défense auxerroise, mais on est obligé de reculer car tout le monde est redescendu du côté d'Auxerre, mis à part Nyang et Da Costa qui sont un cran en au-dessus, mais le ballon est toujours et depuis quelques secondes maintenant dans les pieds des Ajacciens avec cette balle sur Youssouf sur le côté droit et ça ira, c'était en profondeur, c'était vers El Idrissi et ça ira directement dans les pieds de Costil. On sent des Auxerrois en début de seconde période une nouvelle fois très concentrés, très appliqués alors que les Ajacciens ont envie apparemment d'entrer, de mettre un petit peu plus de rythme dans cette rencontre.
Mais ils vont pas avoir le choix aussi Manu hein, parce que c'est confrontation directe face à des concurrents pour le maintien, c'est exactement ce genre de match que doit remporter Ajaccio. Hein.
Ajaccio et Auxerre aussi. Hein.
Voilà, les deux.
Donc, mais là, on a l'impression qu'Auxerre a reculé un petit peu tout à l'heure. Je le disais, il défendait en avançant. Là, on a l'impression que tous les joueurs étaient dans leur propre moitié de terrain et ils laissaient faire un petit peu les Ajacciens pour pouvoir développer leur jeu. Ils étaient bien en place. Auxerre, ils n'ont pas eu de soucis de ce côté-là. Mais est-ce qu'il y a un petit retour à une méfiance de la part des Auxerrois par rapport à cette première mi-temps?
Ce serait dommage, hein, car jusqu'à présent, ils nous ont montré quand même des belles choses en allant de l'avant, défendant, en avançant, en étant bien présent, en ayant une mentalité comme le souhaitait Pélissier, une mentalité de guerrier, une âme de guerrier. C'est ce que nous ont montré les Auxerrois. Et c'est vrai que, comme tu dis, Manu, s'ils reculent doucement, les Ajacciens peuvent peut-être prendre un certain ascendant dans cette rencontre.
Ben oui, parce que plus tu recules, plus tu vas être acculé devant ton but et plus tu risques de faire des fautes aux abords de la surface, des pénalties, et puis Ajaccio peut se créer des occasions. Donc voilà, mais c'est peut-être juste le début de match de cette seconde mi-temps qui laisse penser que les Auxerrois vont reculer, mais bon, on va voir un petit peu dans les 5 prochaines minutes si c'est le cas ou pas.
Avec Niang qui a retrouvé Autrette qui est absent lors de la dernière rencontre, c'était à Reims et la défaite des Auxerrois, était légèrement blessé. Bien là, il a retrouvé sa place dans le 11 de départ. C'est Thibaut ce qu'a fait Sinayoko sur le côté avec ce ballon. Il a fait un petit passement de jambe avec un petit peu de réussite face à Koné. Le ballon lui est resté collé dans la chaussure. C'est dommage que la passe qui a suivi n'était pas plus précise car il y aurait pu avoir vraiment danger devant le but de Leroy, Manu.
Oui, c'est sûr que ces pertes de ballon qui sont compliquées et il va falloir faire attention à tout ça.
Avec cette balle qui est récupérée, qui est toujours dans les pieds des Ajacciens, avec ce débordement sur le côté gauche, un ballon qui va peut-être revenir. On est bien en place hein, du côté d'Auxerre, on ne lâche rien. Et il s'est vraiment battu jusqu'au bout notre défenseur auxerrois qui a pu conserver cette balle et qui a tenté un ravelosson. Il avait fait vraiment l'effort pour récupérer cette balle. Ça revient sur Retretro. Là, les Ajaxiens sont vraiment en train de mettre une grosse pression sur cette équipe auxerroise, peut-être plus présente et plus forte que ce qu'ils avaient pu nous monter en première période, pour tenter de déséquilibrer cette équipe auxerroise qui semblait jusqu'à présent plutôt bien en place.
Est-ce qu'il n'y a pas le manque de confiance aussi, Manu, qui peut jouer à un moment donné pour les Auxerrois? On va rappeler qu'ils ont pu gagner depuis le 27 août dernier, c'était face à Strasbourg. Ça compte un peu dans les têtes, on va commencer un petit peu oui. À Gamberger.
Non, c'est un peu... Gamberger, non, je pense que c'est un peu trop tôt pour reculer, pour défendre ce but. Mais voilà, c'est vrai qu'Ajaccio, de toute manière, ils ne peuvent que rentrer dans cette deuxième mi-temps pour vous essayer de marquer un but et revenir à la hauteur d'Auxerre. Mais c'est pour ça qu'on voit que les Ajacciens sont un peu plus pressants, mettent un peu plus d'agressivité, gagnent davantage de duels. Donc voilà, pour l'instant, ça reste quand même assez équilibré au milieu de terrain.
C'est sûr que si Ajaccio venait à égaliser, là, Manu, ça pourrait vraiment mettre le doute dans la tête des Auxerrois. Hein, parce que
bien sûr, quand tu prends un but, c'est jamais, surtout quand tu mènes 1-0, c'est jamais la confiance, elle repart. Mais après, il faut se remettre dans le coup. Hein. Il ne faut pas non plus dire, voilà, on a pris un but, on ne va pas pouvoir marquer. Voilà, c'est un peu contradictoire par rapport à... Parce que si jamais Ajaccio marque, peut-être qu'Ajaccio va reculer et les possibilités vont être auxerroises.
Avec des Auxerrois. Enfin, en tous les cas, on n'en est pas là. Il mène toujours au score 1-0. Ce but de Saki en première période. Oh, le bon travail. C'était bien vu, hein, Mensa qui avait fait une belle petite accélération. Un petit côté gauche, côté droit, pied gauche, pied droit. L'ancien Bordelais qui avait réussi à prendre le dessus sur ce milieu de terrain ajaxien et qui finalement bénéficie d'un coup franc. Mensa pour tranquillement tourer le milieu de terrain récupérateur. C'est l'homme au 8 poumons, hein, ce garçon. Il pourrait jouer un match tous les deux jours. Il est infatigable, il est assez extraordinaire. Il apporte par son expérience, garçon de l'école nantaise qui évidemment apporte beaucoup à ses équipes auxerroises. Avec cette balle sur le côté, c'était bien vu, peut-être retraite, la frappe. Oh là là, il a complètement dévissé sa reprise. Il y a eu un petit peu de réussite avec ce bon travail de Sinayoko qui avait réussi à s'infiltrer et à repiquer, à glisser un petit peu avec de la réussite ce ballon vers Autrette. Autrette, il est un petit peu surpris, il contrôle, il veut frapper instantanément, le ballon lui reste un peu dans les pieds, c'est assez difficile de réaliser la demi-volée. Il essaye, mais ça passe assez largement à côté du but de Leroy.
Ouais, c'est dommage quand même, Manu, là, parce qu'il y avait une bonne opportunité les Auxerrois.
Ouais, il s'est précipité, je crois, dans son geste. Ouais. Il a voulu enchaîner très rapidement, alors que, parce qu'on le voit bien, défenseur fait l'erreur, il est tout seul, il peut contrôler, l'ajuster peut-être un peu plus, il a croisé. Bon, après, nous, on est à l'extérieur, mais ça va vite quand même.
Hein.
Donc, il faut réagir assez vite et Autrey, malheureusement, a dévissé complètement aussi parce que il a pris, on le voit bien sur le ralenti, on le voit qu'il prend de l'extérieur du pied, alors qu'un bon coup de pied aurait peut-être trouvé la lucarne ou tout au moins le but.
Oula, Coustil qui vient de nous faire un petit dribble sur Moussiti Oko. C'était plutôt gonflé avec cette passe pour retrouver son latéral gauche. Faut pas se manquer, hein, Manu, quand on fait ça. Peut être dangereux, on passe pour un couillon.
Ah ben oui, faut pas se manquer parce que bon, là, il n'y a plus personne après. Hein, donc, il y a but assuré. Mais voilà, il y a des gestes qui sont importants. Il y a des gestes que certains gardiens de but font et que, on dit toujours, c'est très bien joué quand ça réussit. Très mal joué, c'est ça. Quand on réussit pas, et c'est comme ça, quoi. Mais c'est bien parce que ça met un peu de on voit que les gardiens de but sont quand même assez techniques dans l'ensemble.
Ah, ils sont obligés. Hein. C'est vrai que maintenant les gardiens sont obligés d'être très bons au pied. Hein. Très bons au pied, hein, qui font des relances exceptionnelles. Il y a quelques années, on n'était pas obligé d'être aussi bon. Enfin, on va faire un petit peu ancien combattant en parlant de ça, mais quand t'avais le droit de prendre le ballon à surface de réparation, c'était plus simple pour les gardiens.
Ouais, on en a abusé de ça. Moi, j'ai connu cette époque-là. On en a abusé, surtout quand tu menais 1-0 et qu'il restait 5-6 minutes à jouer.
C'était énervant, hein, quand tu regardais un match et que tu disais, oh non, il en est à sa 45e passe en retrait sur le gardien, j'en peux plus, moi, de la passe en retrait, faites quelque chose. Et ils ont eu l'idée d'inventer l'interdiction au gardien de prendre le ballon à la main. Ouais. Ça, c'est pas plus mal, hein, quand même.
Eh oui, ça a permis de voir des joueurs, des gardiens de but de qualité au niveau technique. On l'a vu la semaine dernière avec Rennes où Mandanda a envoyé un long ballon et l'attaquant a pu obtenir un pénalty et Rennes a gagné 2-1.
Ouais, les gardiens qui sont capables de nous faire des dégagements de plus de 80. C'est incroyable quand même de pouvoir faire des relances aussi précises. Oh la tête, oh ça cafouille devant le but. Oh là, c'était chaud devant le but au Serrois. Il y a eu un pied ajaxien, il y a eu une jambe au Serrois. Cette tentative manquée de Vidal qui était monté aux avant-postes, qui a voulu reprendre dans une position assez compliquée. Et heureusement pour la Géosserre, il y avait un pied qui traînait. Ça va permettre à Ajaccio d'obtenir un nouveau corner. Comme quoi les Ajacciens sont vraiment en train de pousser. Ah ouais. Après 54 minutes de jeu, même si Auxerre mène 1-0, Ajaccio est en train de malmener cette équipe auxerroise. Et puis on sait que cette équipe d'Ajaccio elle voyage plutôt bien. Le corner, il est tiré, il est au second poteau, c'est la tête et c'est contrôlé difficilement, mais ça va être dégagé par Sacchi. On sait qu'il voyage plutôt bien puisque il reste sur 3 matchs sans défaite à l'extérieur, avec 2 victoires et 1 nul. Victoire à Brest, victoire à Marseille, qui fut une grosse surprise. Et puis c'est ce nul décroché à 3-1, un but partout. Donc il faut vraiment se méfier jusqu'au bout de cette équipe d'Ajaccio qui, même si elle ne met pas beaucoup de buts, eh bien elle arrive parfois à mettre le petit but de plus qui fait la différence. Donc attention aux Auxerrois et attention à ces tentatives ajacciennes qui sont de plus en plus pressantes sur la cage de Kostić. 55 minutes de jeu, Sacchi ouvre le score à la 8e et Auxerre mène 1-0 dans cette seconde rencontre qui s'annonce pour l'instant quasiment aussi passionnante que la première. Flora,
belle journée hein, Ligue 1 sur RMC avec le multi évidemment à 15h avec Salim Bongali dans l'intérieur. Intégral foot, il y aura 4 affiches au programme et notamment un petit Rennes-Montpellier avec Xavier Grimaud. Salut Xavier.
Salut Manu.
Quand on regarde sur le papier, Xavier, Rennes est sur une série quand même incroyable de 13 matchs consécutifs sans la moindre défaite, toute compétition confondue. Mais voilà, il y a quand même ce match nul jeudi en Ligue Europa face à Fenerbahçe.
Oh, le rouge à Auxerre! Le carton rouge à Auxerre pour Niang. Après, il est vrai, un tacle très 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 appuyé, très dangereux par derrière sur Youssouf. Le défenseur ajaxien reste au sol, il se tient la cheville. Il y a eu un petit peu d'hésitation du côté de monsieur Millot et finalement, après avoir été aux informations, eh bien, il est revenu vers Niang. Il a sorti le carton rouge direct. Manu, tu me diras ce que tu en penses, mais franchement, moi j'ai l'impression quand même que cette faute pouvait et peut mériter un carton rouge car c'était très sévère, même si monsieur Millot reste la main sur l'oreille pour il confirme, ça a été confirmé par la vidéo, le tacle de Nyanga. C'est un tacle un petit peu stupide, un petit peu inutile, un petit peu idiot, et même complètement idiot. Et il va mettre ses coéquipiers en difficulté puisque Niang, il est expulsé après 57 minutes de jeu. Les Auxerrois vont continuer à 10 cette rencontre, même s'il mène au score 1-0.
Bah oui, il mène au score, Manu. Là, c'est quand même un peu stupide de la part de Niang de faire cette faute-là. Alors, j'aime pas dire ça, les fautes d'attaquants, souvent on dit ça, Manu, mais.
Moi je dirais mieux, les attaquants ils savent pas tacler.
Oui, voilà, donc, c'est ça. Voilà. C'est ce que ça voulait dire donc, aussi. Mais...
Voilà, il est loin en plus, ça sert à rien
d'aller tacler là. Il est loin, il sait qu'il n'a pas le ballon, il aurait mieux valu qu'il court à côté de lui parce que je pense que Niang il va plus vite que l'Ajaxien, donc il aurait mieux fait de rester tranquille. Mais bon, tu sais, dans l'élan, il pense avoir le ballon alors qu'il n'a pas, et moi je pense que c'est un rouge mérité quand même parce qu'il y va. Il va vraiment fort pour prendre le ballon. Il va pas pour blesser le joueur, il va pour prendre le ballon. Mais malheureusement, l'Ajaxien pousse le ballon et Niang, malheureusement, emporte tout sur son passage.
Je crois qu'il y a quelqu'un qui est chaud comme content.
Je crois qu'il dit des choses pas très gentilles envers l'arbitre. Voilà.
Ah, oui.
Mais savait que le supporter est vraiment intransigeant. Enfin, vraiment.
Puis toujours objectif, neutre, surtout.
Toujours voilà. Neutre, objectif.
On va suivre le coup franc peut-être avec toi, hein, c'est jouer.
Ouais, c'est reparti.
C'est jouer rapidement.
Youssouf est revenu hein, finalement. C'est un peu le jeu aussi de rester au sol aussi. Mais même si je pense qu'il a dû prendre un bon coup quand même. Il est resté au sol et c'est vrai que du coup du côté de Monsieur Millot, on n'a pas hésité très longtemps. C'est un petit peu une expulsion stupide de Niang, on le rappelle, qui vient de se faire sortir après ce carton rouge. Mais Auxerre mène toujours 1-0. Mais il reste du temps. Il reste plus d'une demi-heure, 32 minutes encore à jouer dans cette rencontre. Ça risque d'être difficile et compliqué au fil des minutes qui avancent.
Ouais, ça promet pour la fin de ce match très important dans la course déjà pour le maintien. On parlait des affiches qui vous attendent à 15h dans le multi Ligue 1, notamment Rennes-Montpellier avec Xavier Grimaud. Tu es toujours là, Xavier ?
Je suis toujours là.
Parfait. Parfait. Je disais donc que Rennes était sur une série incroyable de 13 matchs consécutifs sans défaite. Mais finalement, un petit peu de doute quand même après ce match nul jeudi en Ligue Europa face à Fenerbahçe qui va laisser des traces dans les têtes rennaises.
Oui, on verra effectivement si ça va avoir des conséquences. On rappelle le scénario assez dingue. Rennes qui marche sur Fenerbahçe. Encore, on est gentil en disant ça. Vraiment 3-0 au bout de 30 minutes. Les Turcs, quand même leaders du championnat turc dans leur stade qui ne voient pas le jour. Et puis finalement, ça termine à 3 partout d'une manière assez dingue dans une ambiance complètement folle. Et les Rennais étaient très énervés. On a eu des mots très forts sur RMC Sport de Benjamin Bourigeaud qui disait que tout simplement les Rennais étaient des imbéciles. Bruno Genesio n'a pas démenti ça en conférence de presse, prenant la responsabilité pour lui. Ils étaient très énervés. Le voyage retour dans l'avion a été très silencieux. Et encore hier, à l'entraînement, ils étaient toujours un peu déçu. Alors après Bruno Genesio en conférence de presse, il a un peu dramatisé ça en disant qu'il avait revu le match et que quand même il y avait un niveau de jeu, Manu, je sais pas si t'as regardé le match, mais qui avait été quand même énorme, oui, des Rennais sur une heure selon Bruno Genesio, qu'ensuite il n'avait pas été aidé par des décisions arbitrales. C'est vrai que si on prend décision par décision, l'arbitre n'a pas été toujours bien inspiré, en tout cas en faveur des Rennais, et que son équipe avait fini avec cette inexpérience, puisqu'effectivement tous les joueurs qui sont rentrés avaient entre 17 et 20 ans et qu'ils ont trop reculé, mais que malgré tout Rennes avait été impressionnant. Donc il n'était pas spécialement inquiet, il attendait une réponse cet après-midi face à une équipe de Montpellier qui sera certainement bloc bas comme le match à Angers la semaine dernière où les Rennais avaient gagné difficilement mais avaient gagné quand même. Donc voilà, Bruno Genesio n'était pas plus inquiet que ça. On verra sur le terrain ce que ça donne.
Et sur les compos notamment, avec une surprise quand même dans les buts, avec Steve Mandanda qui est
une bonne
blessé,
surprise
normalement.
Ouais. Exactement, une très bonne surprise. Même Steve Mandanda sorti au stade Sarakoglu de Fenerbahçe en cours de match en début de deuxième période. On l'avait vu dans les couloirs en sortant des vestiaires où il disait qu'il avait mal à l'adducteur. On commençait à s'inquiéter pour Rennes et pour l'équipe de France, puisqu'il y a quand même un peu une pénurie de gardiens, notamment avec la blessure de Maignan. Mais il est déjà titulaire, Steve Mandanda. Il devait se tester hier à l'entraînement, courir. Il est titulaire, donc on peut penser, Manu, qu'il se connaît parfaitement. Hein, Mandanda, il a l'expérience.
Oui.
Et s'il joue cet après-midi, c'est que voilà, son corps, et il a confiance en son corps. Donc très bonne nouvelle, évidemment, pour les Rennes.
Oui. Oui, en plus, c'est un joueur qui triche pas. Donc oui, s'il avait senti n'importe quelle gêne, il aurait dit à Bruno Genesio de pas jouer, de pas le tueraliser. Donc à partir de là, je pense que c'est un joueur qui est professionnel jusqu'au bout.
Ah, au
cerf.
Ça s'anime avec le carton donné à l'instant même à Vinel, qui a taclé par derrière Da Costa. Il y prend le pied et monsieur Millot n'a pas hésité. Carton rouge direct pour Avinel. Alors voilà, c'est vrai que la faute allait par derrière, il y prend bien le pied. En tous les cas, il n'y a pas de discussion d'après l'arbitre de la rencontre.
Ouais, il arrive de loin, Fred, on l'a vu arriver. Ouais, mais moi, je l'ai regardé, pied, je me suis dit, oh là 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 là, qu'est-ce qu'il va faire.
Ouais. Alors inutile de vous dire que tout le stade s'est levé là. C'est, le monsieur tout énervé.
Et le monsieur derrière toi, il dit plus rien là, non. Il est content, non.
Non, il est bien.
Il est heureux là, ça y est.
Il est content, il est en train d'expliquer que l'arbitre, finalement, il est pas si mal que ça, regarde. Il vient de mettre un rouge à un Ajaxien, c'est bien ça, franchement, il est bien ce gars-là, il est bien cet arbitre, les garçons, faut le dire.
Manu, là, on va revoir un il écrase complètement le pied par derrière.
Il fait un tacle inutile, comme Niang aussi. Il peut jamais avoir le ballon, il peut jamais avoir le ballon.
Oh là là. Bon, du coup, Fred, ça relance aussi cette fin de match, parce que là, Auxerre qui menait certains 0 mais qui était réduit à 10, ça va équilibrer les débats.
Bah là, exactement. Voilà, il se passe des choses à Auxerre. Il y a qu'un but, certes, mais bon, deux cartons rouges. Niang d'un côté, Avinel de l'autre. Comme ça, tout le monde est à 10 de chaque côté. Et alors qu'il va y avoir du changement du côté d'Ajaccio avec Mayembo qui devrait faire son entrée. Et du côté d'Auxerre, Hein devrait également entrer sur la pelouse. Le petit milieu de terrain auxerrois qui va rentrer à l'instant même, d'ailleurs. On attend de voir le panneau pour savoir qui il va remplacer sur la pelouse. Et il va, l'entrée de Hein, ça on l'avait, c'est l'autre qui nous intéresse. Autrette qui était, on vous le disait, absent à Reims lors de la dernière journée et qui va être remplacé par Hein après 18 minutes en seconde période. Auxerre mène 1-0 à 10 contre 10.
On évoquait le Multiligue 1 qui vous attend à 15h sur RMC dans l'intégral foot avec Saïm Bongali et notamment ce Rennes-Montpellier avec Xavier Grimaud aux commentaires. Et toi, Manu, tu nous parlais de Steve Mandanda qui est donc titulaire aujourd'hui. Tu nous disais que si il est titulaire aujourd'hui, c'est parce qu'il est à 100%.
Oui, je pense qu'il est à 100%, sinon il n'aurait pas joué ce match-là. Ben, c'est risqué parce que c'est vrai que on peut parce que dans un entraînement, on n'est pas à 100%. On teste pas les muscles, on teste pas assez fort pour pouvoir savoir si le muscle il va tenir ou pas. Alors que là, en match, c'est différent. Alors c'est un peu différent aussi parce qu'il est gardien de but. S'il n'est pas sollicité énormément, ça peut le faire sans problème. Alors que s'il est sollicité, il va faire travailler ses cuisses, il va avoir beaucoup d'efforts à faire et il peut peut-être rechuter.
On verra évidemment ce que ça donne tout à l'heure à 15h. Merci beaucoup Xavier, on se retrouve tout à l'heure pour le Multiligue 1.
Salut Xavier.
Tout de suite, nous sur AMC, on parie sur cette rencontre.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Et avec notre expert en paris sportif, Julian Boubneuf. Salut Julian.
Salut Flora, salut Manu, bonjour tout le monde.
Salut.
Quels sont les cotes pour ce match aujourd'hui?
La victoire de Rennes est cotée à 1,34, le match nul à 5,50 et la victoire de Montpellier à 8,50. Vous l'avez dit, c'est deux dynamiques complètement différentes. Rennes, aucune défaite depuis la fin août et Montpellier, c'est 6 défaites en 7 matchs. C'est une des meilleures attaques contre une des pires défenses de Ligue 1. Donc, je dirais quand même que Rennes gagne sans prendre de but, côté à 2,30.
Manu, quel est ton pari, toi, sur ce match?
Alors, moi, je dirais Montpellier ne perd pas ce match.
Montpellier ne perd pas ce match. Bah, c'est quand même... Ça peut être une très belle cote, c'est déjà coté à 3,10. Et si tu vois Montpellier ne pas perdre, au moins je peux essayer de faire la part des choses. Montpellier marque un but avec un score soit 2-1 ou 3-1 ou 4-1, c'est coté à 3,75.
Ça te va?
Oui, ça va très bien, oui, impeccable.
Je peux vous donner des buteurs.
Tant qu'on fait monter la cote, c'est bien.
Allez, donne-nous des buteurs.
Des buteurs, Guiri à 2, Kalimuendo à 2,50, Terrier à 1,98. Et pourquoi pas Guiri plus Terrier à 3,70.
Ah bah voilà, on prend, effectivement. Merci beaucoup, Julian. Tous les paris à retrouver, évidemment, sur le site rmcsport.fr.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Les Multiligues à retrouver tout à l'heure à 15h sur AMC. On va vous présenter les autres affiches au programme. Un dernier petit tour du côté de la Baie des Champs. Frédéric Joly, le score entre Auxerre et Ajaccio.
66 minutes de jeu. Auxerre mène 1-0, but d'Amza Saki en première période. Niang a été expulsé du côté d'Auxerre et Avinel a été expulsé du côté d'Ajaccio.
Voilà pour sa promesse pour la fin de match qu'on va suivre évidemment dans l'Intégral Sport sur AMC. 14h23, on revient dans quelques instants pour vous présenter les autres affiches qui vous attendent à 15h dans le Multiligue 1 avec Manu Amoros. Ça tout de suite sur AMC.
RMC Intégral Sport.
Flora Moussi. 14h26 sur AMC. Merci d'être avec nous dans l'Intégral Sport. On vous accompagne jusqu'à 15h avant de laisser la main à Salim Bongali pour le Multi Ligue 1. La 13e journée qu'on suit en ce moment avec Manu Amoros. C'est cette affiche entre Auxerre et Ajaccio. Frédéric Joly qui tient toutes ses promesses dans cette lutte pour le maintien. C'est un rude combat entre les deux équipes.
Moi qui tiens toutes mes promesses ou le match, dites-moi.
Les deux.
Effectivement, hein, et oui, tu as raison, Flora, c'est assez incroyable. On assiste à une belle rencontre, deux cartons rouges, certes, mais bon, c'est dans des faits de jeu, sur des gestes, des tacles un petit peu risqués et aléatoires de la part des deux joueurs qui étaient Niang du côté d'Auxerre et Avinel du côté d'Ajaccio. Auxerre mène 1-0. Il y a eu des changements, hein, puisque Spadanouda a remplacé Mossi Tioko et que Moyembo a remplacé Bayala, avec Hein qui est entré il y a quelques minutes, qui peut trouver sur le côté Dacosta qui préfère revenir derrière tranquillement. On fait tourner du côté de la Géosserre Saki, le buteur au Serrois qui a le ballon, il trouve Touré dans le rond central, attention, et ouais, finalement Touré qui est contraint de commettre cette faute sur El Idrissi. Coup franc à suivre, on est dans le rond central, on est très loin évidemment du but de Costil, mais on joue rapidement du côté de d'Ajaccio avec cette balle sur le dans les pieds hein, des Ajacciens. Manu, lorsqu'on se retrouve comme ça à 10 contre 10, ouais, il faut revoir le schéma, il faut pas trop changer grand chose finalement, peut-être du poste pour poste ou sortir un attaquant, ou voilà, on sait pas. En tous les cas, on a fait rentrer Hein du côté d'Auxerre malgré que ce soit un attaquant qui a été expulsé. Voilà, qu'est-ce qu'on fait en priorité quand c'est comme ça?
Pour Auxerre, on reste bien en place avec un 4-4-1 et puis avec Ajaccio, ben, si on peut passer à 3 défenseurs, 4 milieux et 2 attaquants, ça serait pas mal. Parce que voilà, il faut aller égaliser avant de et pour Auxerre tenir le plus longtemps possible et éventuellement profiter de des contres qui peuvent être très rapides.
Ouais, mais en tous les cas, on est resté à 4 défenseurs hein, puisque Moyembo est venu se placer dans la charnière centrale de cette défense ajaxienne. On prend pas trop de risques, même en étant mené au score finalement du côté d'Ajaccio et d'Olivier Pantaloni, on reste quand même fidèle à une défense à 4, alors qu'il faudrait peut-être là prendre des risques.
Ben oui, il faut prendre des risques de toute manière. Tu perds 1-0, donc en plus on sait que pour développer les actions, Auxerre va éventuellement demander à écarter le jeu, à demander au milieu ou au latéral de pouvoir écarter le jeu pour pouvoir étirer cette défense. Mais ça sert à rien de rester à 4 s'il y a un seul attaquant.
1-0 pour Auxerre, le but de Sakhi en première période. 71 minutes de jeu au Stade des Champs.
14h29 sur RMC, c'est l'heure du défi hippique.
RMC. Défi hippique.
Salut Mathieu.
Salut Flora, salut Manu. Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau défi hippique. Aujourd'hui, le Quintet Plus se dispute sur l'hipporome de Chantilly. Il s'agit d'une épreuve réservée à des galopeurs. Ils sont 15 à prendre part à cette compétition sur la distance des 1600 mètres. Il s'agit du mile sur la piste en sable fibré. C'est une surface assez particulière. Tous les chevaux ne sont pas adeptes plutôt de cette surface. Et aujourd'hui, nous sommes avec Pascal. Salut Pascal.
Oui, bonjour. Salut Pascal.
Alors Pascal, qui est ton favori dans cette compétition ?
Alors mon favori, je vais prendre Sissoboy, le 5. Voilà, parce que bon, c'est un habitué de la PSF. Chantilly, pour moi, c'est son jardin. Je crois qu'il a 6 sur 7 sur cette surface. Il a disputé plusieurs quintés et je pense qu'il était à la recherche d'une victoire dans cette catégorie. Et s'il doit gagner un quintet, je pense qu'aujourd'hui, toutes les conditions s'est réunies, en plus avec un bon numéro de corde. Donc voilà.
Et bah c'est vrai, tu as raison Pascal, c'est une très belle possibilité, hein, ce numéro 5 Sissoboy. Nous, on va lui opposer le numéro 3 Dertunji. On va tout simplement faire confiance à Jérôme Régnier, son entraîneur, qui n'a pas caché son envie de remporter cette compétition. Il pense qu'il est très bien placé au poids, ce numéro 3 Dertunji, qui pourrait donc inquiéter potentiellement ce numéro 5 Sissoboy. En tout cas, si le numéro 5 Pascal termine devant le numéro 3, tu reviendras dès demain pour un nouveau défi hippique. Et on va terminer, Florent, à te demander l'avis
à Manu. Mais toujours, c'est la tradition le dimanche.
Et Manu, qui est ton favori, toi, dans cette compétition ?
Alors moi, je vais rester sur l'as Parchemin. Je crois qu'il a beaucoup de poids, mais je pense qu'il a des gros moyens et on n'a pas encore tout vu.
Bah, c'est une belle possibilité, en effet, Parchemin, qui dépend de l'entraînement redoutable d'André Fabre et qui a évolué dans des compétitions un petit peu plus relevées. Donc normalement, il a une chance également pour prétendre à la victoire.
Merci beaucoup, Mathieu.
Merci. PMU. Que les meilleurs gagnent. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
La Ligue 1 qu'on suit évidemment sur RMC, 13e journée dans l'Intégral Sport. Un petit tour du côté de la Baie des Champs entre Auxerre et Ajaccio. Frédéric Joly.
74 minutes de jeu. Auxerre mène 1-0 face à cette équipe d'Ajaccio. Et une rencontre très ouverte. Hein. Franchement, on assiste à un bien beau match où le soleil y connaît ici à Auxerre. Il fait beau, on est bien. Et on voit un match de foot plutôt sympa. Voilà, un dimanche tranquille comme on aimerait en vivre plus souvent. Avec ce ballon récupéré par Ramel Osson sur le. Oh là, le petit, oh là, le Ravelo, ça vient de nous mettre.
Régalade,
là. Ah, il nous a mis dans le vent, Spadanouda, complètement. Il y avait cette longue transversale, c'était vers Haïm, mais l'intervention de Youssouf, qui, à chaque fois qu'il touche le ballon, se fait siffler, évidemment. C'est lui qui est à la raison. C'est sur lui qu'avait été commise la faute qui a emmené l'expulsion de Nyang. Alors dès qu'il touche le ballon, là, je sais pas, ils ont pas eu le temps de siffler là, les supporters, mais je pense pas qu'ils viennent en vacances sur les bords de Lyon l'été prochain. Enfin quoi, qu'Ajaccio il fait meilleur, autant qu'il reste au soleil.
Quitte à choisir.
On a moins de soleil, j'ai un tout petit peu moins chez nous, mais bon. En tous les cas, les Auxerrois sont. Oh là là, faute, là le petit coup de pied qui fait bien mal derrière, juste derrière la cheville sur d'Aline Drissi. Sur le défenseur, sur Touré, les milieux de terrain au Serrois qui reste au sol, il a un petit peu de mal à se relever, mais bon, il se relève, il est solide, le défenseur, le milieu de terrain au Serrois. Au Serrois 1-0, il reste un quart d'heure à jouer, but de Sakhi en première période.
La belle journée de Ligue 1 se poursuit sur AMC tout à l'heure à 15h avec le multi, avec Salim Bongali dans l'intégral foot. Il y aura 4 affiches au programme. On vous a parlé tout à l'heure de Rennes-Montpellier. Place maintenant à Monaco-Angers avec Maxime Tillette. Salut Maxime.
Salut Flora, salut Manu, bonjour.
bonjour à tous.
Un vrai coup d'arrêt en ce moment pour les Monégasques, et ça s'est confirmé cette semaine en Ligue Europa.
Oui, avec ce nul 1 partout, hein, ramené de Budapest jeudi soir, la SM avait pourtant bien le match en main, mais ne s'est pas mise à l'abri, et ça nous fait une série de 4 matchs sans victoire pour le club de la Principauté. Donc la dynamique n'est pas très bonne, et jeudi en plus, c'est victoire impérative contre l'Étoile Rouge de Belgrade pour se qualifier en 16e de finale d'Europa League, sorte de finale de ce groupe jeudi soir ici à Louis II. Deux raisons donc, la mauvaise dynamique et ce match important qui explique les 6 changements opérés par Philippe Clément aujourd'hui dans son 11 de départ par rapport à celui de jeudi. Alors ça peut être un 4-4-2 ou un 3-5-2 avec Nubel dans le but. On va partir sur une défense à 4, Dizazi arrière droit, Maripan, Sarr et Ismaël Jacobs arrière gauche. Devant eux, Minamino ailier droit, Magnès Akliouche ailier gauche, et puis Fofana Matadzo à la récupération devant Mbolo et Ben Yedder. Si on passe sur une défense à 3, eh bien ce serait Jacobs et Akliouche qui seraient des pistons. Et puis côté Angers, la pire défense de Ligue 1 qui est sur 4 défaites consécutives, et eh bien en l'absence de Boufal et de Doumbia, Gérald Baticle opte lui pour un 3-5-2. Fofana dans les buts, Baptista Mendy, Brahim Amadou et Cédric Outunji derrière. Dans les couloirs, Yann Valéry à droite, Pierrick Capel à gauche. Pour faire le jeu au milieu, Asdine Ounaoui, Nabil Bentaleb et Imad Abdelli, et puis devant Amine Salama et Adrien Huneau.
Ouais, Manu, t'es inquiet un petit peu pour cette équipe de Monaco en ce moment, on ne sait pas trop sur quel pied danser avec eux. Hein.
Inquiet au niveau des résultats, oui, au niveau de la qualité de jeu, pas trop, parce que quand même, ils se créent énormément d'occasions, donc
ils marquent à chaque fois. Hein.
Ouais, ils marquent régulièrement, donc je pense que cet après-midi, ils vont être présents, ils vont marquer des buts. Angers, malheureusement, c'est la pire défense de notre championnat, et je vois pas comment ils peuvent arrêter cette attaque monégasque.
Merci beaucoup Maxime, on te retrouve tout à l'heure à 15h pour le coup d'envoi de ce Monaco-Angers. Le temps, le score du côté d'Auxerre, Frédéric Joly face à Ajaccio.
77 minutes de jeu, Auxerre mène 1-0, but de Saki en première période, Niang a été expulsé du côté d'Auxerre, Avinel du côté d'Ajaccio.
On retourne du côté de la Baie des Champs dans quelques instants avec Manu Amoros, et puis on évoquera les deux dernières affiches du multi-Ligue 1 qui vous attendent à 15h dans l'intégrale foot sur RMC. Ce sera avec Salim Bonnegal. À tout de suite sur RMC
Intégral Sport,
Flora Moussi. 14h37 sur RMC, dernière ligne droite dans l'Intégral Sport avant de laisser la main à Salim Bonnegal pour le multi Ligue 1 dans l'Intégral Foot. Je suis toujours avec Manu Amoros et on suit la fin de cette affiche entre Auxerre et Ajaccio, 13e journée de Ligue 1 du côté de la Baie des Champs avec Frédéric Joly, une fin de match assez indécise. Hein.
Il reste 10 minutes à jouer, Auxerre mène 1-0 et c'est en première période que les Bourguignons ont marqué ce but par Saki d'une superbe frappe en pleine lucarne, alors que Belaïli vient de sortir, il vient d'être remplacé par Nouri. 5 changements du côté d'Ajaccio. Amouma est entré, Mangani, il y a eu Mayembo. Voilà, on a fait tous les changements du côté de cette équipe ajaccienne, alors qu'on se prépare à faire de nouveaux changements, mais cette fois-ci du côté d'Auxerre. L'arrivée de Perrin et de Charbonnier sur la pelouse. Hein, il avait fait une brève apparition lors du match à Reims, lui qui depuis le 15 août dernier était blessé, touché, une fissure au tibia, l'empêchait de retrouver la compétition. Il revient doucement à son niveau, il devrait dans un instant ou dans quelques petites minutes retrouver la pelouse du Stade Abbé Deschamps. Cette balle dans la profondeur, et bien tranquillement le Roi qui peut sortir et capter cette balle pour relancer assez rapidement, même très très rapidement dans les pieds de Mangani. Voilà, les Bourguignons restent bien en place, restent bien concentrés. Ajaccio cherche à faire la différence, mais il tombe sur des Bourguignons qui sont très solidaires et qui se serrent les coudes dans cette fin de rencontre. Il mène 1-0 et on n'est peut-être pas au bout de nos surprises, car c'est un match vraiment qui n'a pas baissé en rythme, et à 10 contre 10 on a toujours du beau spectacle avec, comme vous le disiez, l'entrée de Perrin. Ça c'est la première entrée la seconde entrée du côté d'Auxerre. Il remplace Dacosta, alors que Charbonnier va également faire son entrée sur la pelouse dans un instant. Auxerre mène 1-0, il reste 8 minutes à jouer dans le temps réglementaire.
Manu, comment tu vois cette fin de match? Tu penses que Auxerre va tenir bon, ou tu penses qu'Ajaccio a possibilité de revenir?
Non, je pense que Auxerre va tenir bon, parce que je pense qu'ils sont mieux organisés derrière. Quand ils perdent le ballon, ils sont en 4-4-1, ils sont vraiment très solidaires, très combatifs, dans l'agressivité, ils gagnent pas mal de duels. Et si Ajaccio n'arrive pas à élever un peu plus le niveau qu'ils ont actuellement, ça va être très dur jusqu'à la fin du match.
Allez, grosse journée Ligue 1 sur RMC, Auxerre Ajaccio, donc en ce moment 1-0 pour les Auxerrois. Lorient-Nice à 17h05. L'affiche ce soir, ce sera à 20h45 dans l'after entre Lyon et Lille. Et puis à 15h, le multi Ligue 1. Dans moins de 20 minutes maintenant, 4 affiches au programme. On vous a présenté Monaco, Angers et Rennes-Montpellier tout à l'heure. Place aux deux dernières affiches avec un autre club engagé en Coupe d'Europe cette semaine. Nantes qui accueille clairement David Filippo. Salut David.
Salut Flora, salut, salut Manu, David. Salut à tout le monde.
La victoire dans les dernières secondes face à Karabag en Ligue Europa doit avoir reboosté les Nantais pour ce match.
Ouais, et ça a reboosté aussi les supporters nantais. Ils seront plus de 30 000, vous imaginez, cet après-midi à la Beaujoire pour un Nantes Clermont, hein, sans faire injure à ce club de Clermont Foot. Et oui, Nantes va beaucoup mieux. Nantes est 15e de Ligue 1, il va beaucoup mieux et a retrouvé le sourire avec ce succès sur le fil jeudi soir avec ce but dans les dernières secondes du temps additionnel de Ganago. Il y avait déjà eu du mieux, hein. Il y avait un regain il y a 15 jours. Le FC Nantes avait gagné contre Brest ici à la Beaujoire 4-1. Et puis il y a ce nul il y a une semaine à Nice, un but partout. Les Nantais se sont estimés lésés par l'arbitrage et il en a été question hier lors de la conférence de presse d'avant-match d'Antoine Camboiré. Il veut absolument, l'entraîneur nantais, que les Canaries récupèrent ces deux points perdus et valident ce match nul à Nice cet après-midi face à Clermont en s'imposant devant donc plus de 30 000 personnes.
Ouais, Manu, c'est ce genre de victoire aussi qui peut relancer les Nantais dans une saison un peu compliquée, hein.
Ouais, pour la confiance, c'est super de revenir et de gagner un match à la dernière seconde, même si c'est la dernière seconde. Même la semaine dernière contre Nice, on a vu une équipe de Nantes qui était bien organisée, qui était dans le collectif, qui s'est créé pas mal d'occasions. Après, bien sûr, l'arbitre a pris ses décisions. Ils ont été lésés par ce pénalty non sifflé. Mais voilà, il y a une dynamique qui est en train de se créer et j'espère qu'aujourd'hui, ils vont pouvoir gagner.
Juste pour l'anecdote, Flora, ouais. 10 secondes. Alban Lafont, il est suspendu aujourd'hui, après le carton rouge face à Nice. C'est Rémi Descamps qui le remplace. Et Alban Lafont est en train de se rendre en tribune noire. Vous m'avez bien entendu. Il va rejoindre les supporters nantais en tribune noire. Il ne devrait pas rester tout le match. Mais en tout cas, il est en train d'y aller. On vient de me l'indiquer par SMS.
Ça, c'est génial. C'est toujours agréable quand les joueurs viennent au milieu des supporters pour suivre les matchs. Merci beaucoup, David. On se retrouve tout à l'heure à 15h pour le coup d'envoi du multi. La dernière affiche, c'est Reims en déplacement du côté de Brest avec Clément Brossard. Salut Clément.
Salut Flora, salut Clément. Salut Manu, salut à toutes et à tous.
Ça y est, Brest a enfin gagné le week-end dernier. Et si je ne me trompe pas, tu voulais nous parler des bancs des deux côtés, c'est ça?
Exactement, parce que ce sont des hommes de part et d'autre qui n'ont pas l'habitude d'être numéro 1 avec un trio du côté de Brest, avec Bruno Grougy, évidemment une légende ici à Brest, hein, il a joué 9 ans avec le Stade Brestois, Julien Lachouer également, ça c'est un duo qui marche très bien, et puis avec Yvan Bourgi, pardon, et qui fait partie de ce trio à la tête du Stade Brestois. Et de l'autre côté, à Reims, eh bien un homme, Will Steele, jeune belge de 30 ans, qui occupe le poste de numéro 1. Il va falloir faire un choix après cette trêve hivernale et cette trêve du mondial, parce que ce sont des hommes qui n'ont pas leur diplôme, tout simplement. Et donc la question va se poser, est-ce qu'il va falloir prolonger ces hommes-là sans diplôme, ce qui veut dire payer une amende de 25 000 euros chaque match, ou alors trouver un entraîneur diplômé. On commence un peu à se poser la question, ce soit Jean-Pierre Caillot, le président de Reims, ou alors les dirigeants brestois avec notamment Monsieur Lorenzi. Tout ça va permettre aussi au club de se structurer et voir comment dans les semaines à venir ça va bouger. Le trio brestois a bien réussi les choses, tu l'as dit Flora, avec une victoire qui a stoppé une série de 8 matchs sans victoire à domicile et même en Ligue 1 pour le Stade Brestois. Et du côté rémois, la dynamique qu'a insufflé Will Steele marche très bien également.
Ouais, c'est vrai que Manu, l'arrivée de ces deux nouveaux coachs aussi, ça pose évidemment cette question, que faire après la trêve, surtout si ça marche bien jusque là.
Oui, c'est un peu dommage d'ailleurs qu'on puisse les empêcher de travailler quelque part, parce que on impose des diplômes, mais il y en a qui ont pas de diplôme et qui ont des qualités mieux que ceux qui ont le diplôme. Donc à partir de là, c'est un peu dommage. Mais il y a une dynamique de côté de Brest, Reims qui est pas trop mal quand même, parce que ils ont fait match nul à Lorient il y a une quinzaine de jours. Donc c'est une équipe qui est sérieuse, c'est une équipe qui va être combative et ça risque d'être un bon match aussi.
Merci beaucoup vous Clément, on te retrouve tout à l'heure évidemment à 15h, ce sera avec Salim Bongali pour le coup d'envoi de ce multi-ligue 1 et ses 4 affiches au programme. Manu, on va suivre la fin de cette Auxerre Ajaccio 13e journée de Ligue 1 du côté de la Baie des Champs avec Frédéric Joly. Il reste quelques minutes à jouer pour le moment. Auxerre tient son avantage.
Il reste 3 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Auxerre mène 1-0 et alors c'est assez flagrant, Manu, tu as sans doute remarqué, côté placement sur le terrain du côté d'Auxerre, on essaie de se tenir un 4-4-1 alors que du côté d'Ajaccio c'est un 4-5, hein. il n'y a plus de ligne au milieu, c'est on balance dès qu'on peut, on balance et débrouillez-vous devant, que ce soit Mouma ou encore autre joueur.
Et oui, c'est un peu dommage parce que il faut avoir une organisation, repartir de derrière, ne pas se
prendre. Oh la barre! La barre transversale de Gauthier Haynau, c'était magnifique. Oh, il est à plus de 30 mètres. Il voit que le roi est avancé. Il décroche une extérieure du pied gauche. Le roi est scotché. Il ne peut absolument rien faire si ce n'est voir cette balle rebondir sur sa barre transversale. On était tout près du 2-0.
Ah ouais, quelle prise de risque quand même, hein, parce que il aurait pu avancer, il aurait pu se dire je vais gagner du temps en allant un peu sur le côté, gagner un corner. Non, il a pas calculé, il a frappé pratiquement de demi-volée et c'était vraiment superbe ce tir. Hein.
Ah, c'était vraiment bien vu de Hein, il a tenté le coup. Voilà, il a souvent le sens du but, il est comme ça, il est instinctif comme garçon. Ouais, Manu, on disait, hein, c'est pas, on s'en rend compte. Alors là, on s'est un petit peu replacé du côté d'Ajaccio, mais vraiment il y a plus vraiment de ligne, plus de schéma du côté d'Ajaccio. On est neuf à attaquer quand on peut, 5 devant, 4 derrière, et on envoie devant et débrouillez-vous les garçons.
Oui, c'est un peu c'est tiré un peu par les cheveux parce que c'est compliqué de avec une défense à 4 joueurs, 4 milieux de terrain, de trouver des espaces et balancer les ballons, ça peut que favoriser la défense. Donc voilà, il faudrait essayer d'organiser du milieu de terrain et trouver des failles entre les lignes pour pouvoir venir très rapidement égaliser parce qu'il reste plus beaucoup de temps.
Hein. Il reste une minute dans le temps réglementaire, il y aurait évidemment du temps additionnel avec cette balle qui est récupérée précisément par Nouri, entrée il y a quelques minutes à la place de Belaïli. Nouri qui fait l'appel dans la profondeur. Non, finalement c'est une tête au Serrois une nouvelle fois. Janvier qui est venu mettre sa tête en opposition. Ça qui va pouvoir glisser sur le côté. Ravelosson, il a de l'espace, il a plusieurs mètres d'espace, il va pouvoir monter ballon pied, glisser vers Saki. Saki qui va les provoquer, il va les défier. Saki ne passe un joueur, deux joueurs. Non, finalement il est repris. Monsieur Millot laisse l'avantage. Il y avait une faute sur Saki. On va revenir derrière. Voilà, ça c'est bien joué du côté d'Auxerre. Il mène 1-0. Ils font tourner le ballon. Ils ne prennent pas de risque sur ce coup-là avec cette balle Ravelosson. Ça revient sur Saki qui va sans doute revenir sur Joubal complètement derrière. Ah non, finalement il a choisi Touré à sa gauche qui revient lui sur Joubal en charge des solutions. Il n'en a plus beaucoup. Ah, peut-être par-dessus, c'est bien vu cette balle par-dessus, c'était cette balle vers Ravelosson alors qu'il y aura 4 minutes de temps additionnel. Le centre, Charbonnier, c'est pas trop ce qu'il a voulu faire, et dans un premier temps je pense qu'il a voulu se lancer dans une espèce de retourné acrobatique. Finalement il a vu que c'était compliqué, il a laissé le ballon passer devant lui, hein, Manu.
Oui, c'est vrai qu'il a voulu tenter un retourné acrobatique et puis il s'est ravisé en disant non, je vais me faire mal peut-être, ou alors je vais m'envoyer, hein. Donc les Auxerrois sont bien en place quand même, hein. Ça va être très dur, il reste pas longtemps, ça va être très dur pour Ajaccio parce qu'on n'a pas l'impression, parce que Auxerre quand ils récupèrent le ballon, ils le font tourner et on voit les joueurs d'Ajaccio qui restent, ils vont pas au contact, ils vont pas faire le pressing. On a l'impression qu'ils sont résignés à perdre ce match.
Et le centre de Youssouf, le meilleur ami des supporters de la JOCR depuis quelques minutes maintenant, directement dans les gants de Kostil qui a été évidemment ovationné par les 15 000 spectateurs présents. Hein, le bon ballon de Hein sur le côté, il va pouvoir rentrer à sa poste de réparation. Il y a du monde, il y a Charbonnier, la passe en retrait, Charbonnier. Oh, c'est complètement écrasé, Charbonnier, une deuxième chance. Non, finalement, il a complètement repris, manqué sa reprise du pied gauche. Bon, certes, ce n'est pas forcément son meilleur pied, mais il avait quand même le temps peut-être de s'appliquer pour mettre vraiment un intérieur que là, on a senti que c'était une frappe complètement manquée. Le ballon lui a quasiment roulé sur le pied. Manu, une nouvelle fois, une occasion gâchée pour les Auxerrois. Attention à ne pas le regretter puisqu'il reste 2 minutes 30. Oh, Charbonnier, lui aussi, il tente sa chance de loin et c'est à côté. Finalement, ils sont
c'est
chauds,
plus
les
de
Auxerrois.
Loin, là, Fred, c'est...
Ah, mais dans le rond central.
Il a marqué un but de loin. Hein. C'est celui qui marque un but de loin.
C'est ça. Bon, Costil va s'y essayer peut-être avant la fin du match, on ne sait pas. Là, il était dans le rond central et s'est dit bon, il y en a qui arrivent, hein, par moment, pourquoi pas moi. Ouais. Mais là, c'était.
Je vais montrer ma frappe aussi aussi, moi je peux y arriver aussi.
Bon, elle n'était pas bien puissante. On a bien senti que le roi était beaucoup moins inquiet que lors de la frappe de Rennes qui a fini sur sa barre transversale. Là, il a vu que le ballon n'était pas du tout cadré. Cette balle une nouvelle fois, c'était vers Nouri et c'est dégagé. L'intervention au Serrois, elle est là, la solidarité. Prôné par Christophe Pélissier pour cette équipe au Serrois. Hein, qui fait l'effort pour venir défendre. Il y a encore ce ballon dans les pieds ajacciens. Il reste moins de 2 minutes dans le temps additionnel. La tête peut-être, oui, ça sera celle de Raveloson et une nouvelle fois accompagné par Joubal qui va permettre à Perrin de partir sur le côté. Perrin, il a fait la différence. Et va-t-il pouvoir glisser à Charbonnier? Voilà qui est fait. Charbonnier, oh, c'est un tout petit peu trop fort pour Charbonnier qui va se remettre sur son pied droit. La frappe, et ça passe au-dessus. C'est une rencontre, une fin de rencontre complètement folle. Les Auxerrois laissent venir. Comme à la grande époque, lorsque la force de la Gioserre, c'était la contre-attaque, et bien là, ils nous font un remake des belles années auxerroises avec une contre-attaque dès qu'ils le peuvent. Il reste une minute à jouer, 1 minute et 5 secondes à jouer dans ce temps additionnel. Auxerre mène 1-0 avec une nouvelle fois ce ballon sur le côté gauche pour l'AC Ajaccio. Il va falloir mettre dans le paquet. On est bien en place du côté d'Auxerre, on ne se jette pas, on empêche juste le joueur de se mettre dans une position favorable. Ça revient sur Vidal qui veut chercher de l'autre côté. Hein qui s'est métamorphosé en latéral droit est venu embêté sur le côté pour pouvoir récupérer cette balle. Il met devant, boum, devant, on ne cherche pas à réfléchir du côté d'Auxerre. Maintenant on dégage comme on peut, mais alors que le public est chaud bouillant, la Gioserre est en train enfin de retrouver la victoire, ce qui n'aurait pu arriver depuis le 27 août dernier. C'était face à Strasbourg et ce 1-0. Et surtout la Gioserre, en cas de victoire 1-0, ne prendrait pas de but, ce qui n'aurait pu arriver non plus depuis le 27 août dernier. Autant vous dire que cette rencontre, elle est importante. La première de Pélissier qui est debout le long de la ligne de touche. Il est en train de donner des consignes, il fait signe à Charbonnier, décale-toi, va le long de la ligne de touche à l'opposé pour pouvoir amener cette balle, Charbonnier. Et voilà, c'est terminé. Le public au Serrois est ravi, ils retrouvent enfin la victoire de leur équipe, la Gioserre. Ils étaient une nouvelle fois 15 000 au stade Abbé Deschamps pour assister à cette victoire 1-0 avec ce but de Saki. Il y a eu un expulsé de chaque côté, Nyang du côté d'Auxerre et Avinel, du côté d'Ajaccio. 1-0 pour la Gioserre.
Merci beaucoup Frédéric Joly. Du côté de l'Abbé Deschamps, Manu, c'est vrai que ça y est, enfin Auxerre tient sa victoire et on voit déjà l'effet aussi Christophe Pélissier, parce qu'ils n'ont pas paniqué dans ce match finalement, les Auxerrois.
Non, ils n'ont pas paniqué, ils ont quand même maîtrisé Ajaccio qui ils ont manqué d'ambition quand même. Ajaccio, à un moment donné, quand tu perds 1-0, tu dois mettre davantage d'ingrédients pour pouvoir aller au moins égaliser. Donc ils ont été pris par Auxerre, qui, sans faire quand même un grand match, a été bon dans la récupération de balles. Ils ont été agressifs. Donc voilà, c'est un peu dommage parce qu'Ajaccio peut-être aurait mérité davantage s'ils avaient été ambitieux.
Merci beaucoup Manu.
Merci,
je te retrouve dimanche prochain évidemment pour une nouvelle très belle affiche de Ligue 1 à 13h. On va se régaler encore une fois. Et votre bel après-midi Ligue 1 continue tout de suite sur RMC avec le multi à suivre dans l'intégral foot avec Salim Bonghali.